Europe 1. Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui soigne votre culture G sans bouder vos zygomatiques en compagnie d'un animateur extrêmement célèbre, toujours sur le devant de la scène, à parler à la télé devant des millions de gens, à la radio aussi, devant des milliers, des centaines de gens, quoi. Son secret contre le trac.
On enchaînait les chicanons.
Non, la sophrologie, Stéphane, la sophrologie, c'est ça votre secret contre le trac?
Même pas, j'ai jamais le trac, Mathieu. Enfin, contrairement à nos illustres personnages du jour, des artistes immenses qui, malgré le succès, souffrait terriblement du trac. À commencer par Frédéric Chopin. Un compositeur de génie qui a, tout au long de sa vie, préféré jouer du piano en tout petit comité et, si possible, dans l'ombre, pour éviter d'être trop regardé. Je vous raconte sa vie à l'image de l'histoire de son pays dans les années 1800. Compliqué, vous verrez. Et puis, un monument, Yves Montand, chanteur puis acteur, qui pouvait tout jouer, tout interpréter, sans jamais montrer ce qui le rongeait, le trac, lui aussi, quand il partait de bon matin, quand il partait sur les chemins du succès. De votre côté, Mathieu, vous nous brosserez le portrait, à 99% vrai, d'une chanteuse culte qui, elle aussi, n'a jamais réussi à surmonter son trac.
Oui, en 1962, tous les garçons et les filles de son âge se promenaient dans la rue deux par deux, sauf vous, Stéphane, qui était déjà célibataire. Françoise Hardy, c'est à peu près la même chose. Françoise Hardy est une légende de la chanson française, pourtant elle n'a jamais réussi à vaincre son trac, portrait d'une éternelle timide.
Formidable. Eux sont tout sauf timides, et heureusement, sinon on les aurait pas embauchés. Avec nous, comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde, et toute la semaine, à l'occasion du bicentenaire de la disparition de Napoléon, elle nous entraîne dans son intimité. J'ai nommé Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour.
Ah bonjour, oui. Messieurs. Ah oui, alors j'entame une série de chroniques triomphales en hommage à l'empereur, et je commencerai bien sûr par le commencement en évoquant ses célèbres lettres d'amour à Joséphine. Elles sont rééditées aux éditions Le Passeur et le titre du livre est une phrase extraite d'une des lettres de Napoléon. Vivre par Joséphine, voilà l'histoire de ma vie. Et pour surmonter mon trac, je me suis apporté un petit truc comme ça, très personnel.
C'est le cœur de Joséphine.
Vous voyez. Non, c'est un boulet de la bataille d'Austerlitz qui me permettra de trouver l'inspiration.
Mais ça vous
et je vous le fais passer sur le champ dans ce studio.
C'est lourd en plus. C'est un vrai boulet.
Montrez-moi
absolument,
ce boulet, Stéphane. Oh là là,
absolument.
Parce que vous l'avez
Parce que le champ de bataille d'Austerlitz, c'est comme Verdun. En France, ça n'a jamais été loti. Et donc, avec les années, tout ce qui est en fer remonte à la surface. Ouais. Et les paysans...
Et vous l'avez acheté à un paysan.
Et je l'ai acheté exactement à Austerlitz le 2 décembre 2005.
Avec un détecteur de
absolument,
métaux,
bien sûr. Vous trouverez... J'ai acheté des balles également que j'ai distribué à des amis qui étaient au niveau d'en apprécier. Bien sûr.
Eh bien, écoutez, voilà. Alors, David Castel-Lopez est avec nous.
Oui, il est avec nous, mais il n'est pas avec nous. Parce qu'il a le boulet entre les mains, on sent qu'il est parti très loin.
Oui, tout à fait.
De quoi vous remontez aux origines d'une invention de...
Oui, alors rien à voir. Moi, c'est les stagiaires de 3e.
Hein, ils ne sont pas des boulets. Contrairement à ce que vous nous disiez en antenne. Vous voyez, souvent, le stagiaire de 3e, on ne sait pas trop quoi en faire.
Ils sont complètement des boulets. En fait, il y a un rapport, bien sûr, que c'est des boulets, les stagiaires de 3e.
Surtout qu'ils ne font rien, on ne peut rien leur demander.
Ah là là, c'est insupportable.
On ne peut rien leur demander.
C'est pas très sympa, ça.
Mais si, mais.
Ils sont tout mignons.
Ils sont pas si mignons que ça.
Ah oui, vous êtes tombé sur des boulets.
Ouais, j'ai fait des statistiques dans ma tête. Je voulais livrer.
Mais ils étaient votre assistant dans vos voyages.
Mais ils sont rien. Non, c'est plutôt parce que j'ai travaillé dans des entreprises des fois normales.
Ah c'est vrai. Chez Kappa, je crois qu'il a travaillé chez Kappa.
Je travaillais au Monde aussi, au journal Le Monde, et j'avais des stagiaires de 3e qui étaient nazes quoi.
Non, c'est pas ça. On ne peut rien leur demander. Oui. C'est la loi.
Ah c'est la loi. Ils peuvent juste observer.
Et donc c'est un stage d'observation.
C'est pas mal.
Donc ils sont là, sur une chaise, à vous regarder.
Et on se sent jugé. Et on n'aime pas ça.
Non.
Olivier Pouls.
Ça, c'est franchement la quenelle.
Oh, c'est mon plat préféré.
Mais c'est délicieux.
Moi aussi, c'est le plat de la quenelle de Lyon.
Alors, celle de Lyon, bien sûr, sauce Nantua, dont je vous donnerai la recette. Mais vous verrez que des variations de la quenelle, il y en a dans plein d'autres régions, dans plein d'autres cuisines, notamment en Alsace.
La quenelle et ses variations, nous découvrirons ça dans la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre. Enfin, on le sait, grâce à notre quiz quotidien, l'absence de trac n'est pas forcément corrélée à une chance supérieure de victoire. Notamment dans Burn to be Alive, épreuve de culture G dans laquelle il serait bon qu'un jour, enfin, Stéphane stresse un tout petit peu.
Vous connaissez cette phrase d'une jeune actrice qui allait voir Louis Jouvet et qui disait...
C'est pas Louis Jouvet, c'est Sarah Bernard.
Je ne comprends pas, maître ou madame, j'ai jamais le trac. Vous verrez, ça viendra avec le talent.
Et oui, mais pourquoi vous semblez vous l'appliquer à vous-même? C'est terrible. Vous dites que vous n'avez pas le trac, pourtant
non,
vous avez
mais je plaisante, j'ai le trac, évidemment.
Ah, vous avez le trac.
Bien sûr.
C'est vrai,
bien
encore sûr. Aujourd'hui, malgré ces milliers de antennes.
Je me dis, il y a l'émission, on va être de 16h à 18h sur Europe 1. J'ai le trac.
Ouais, vous n'avez pas le trac, mais vous êtes un grand acteur, Stéphane Bern. Pour l'heure, détendons-nous et découvrons notre premier grand traqueur de l'histoire, Valson, avec Stéphane Bern qui nous raconte Frédéric Chopin.
Europe 1. 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Avoir un bon Chopin, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Derrière Chopin, le compositeur de génie se cachait un homme pétrifié par le trac.
Il va, mais j'ai peur!
Stéphane Bern nous raconte, sans fausse note, je l'espère, et avec beaucoup de dextérité, Frédéric Chopin ou la vie compliquée d'un artiste passé à la postérité. Une chronique que je vais me permettre d'accompagner au clavier. Je m'installe. Allez-y, Stéphane.
C'est beau, vous jouez très bien.
Oui,
Frédéric Chopin est le plus français des musiciens polonais et le plus polonais des compositeurs français. L'histoire de ce génie de la musique est d'une certaine manière le reflet de celle de son pays natal. Elle est douloureuse et compliquée. Au XIXe siècle, la Pologne fait régulièrement les frais des conflits entre les grands États qui l'entourent, la Prusse, l'Autriche et la Russie. En 1810, l'année de naissance de Frédéric Chopin, la Pologne est un duché, le duché de Varsovie. Et Chopin est donc bien polonais de naissance. Si son nom et son prénom sonnent français, c'est parce que son père, Nicolas Chopin, s'est mis quelques années plus tôt au service d'une comtesse comme précepteur avant d'épouser l'une de ses suivantes, Justina. C'est un mariage heureux. Le couple est bien assorti et de poste en poste, Nicolas Chopin s'impose dans la bonne société comme un intellectuel aisé. Justina est une compagne tout aussi brillante qui pratique le piano et le chant en amatrice, mais avec beaucoup de talent. Frédéric, le cadet de la famille Chopin, grandit donc dans une famille aimante et en vue, ce qui lui permet de se frotter à la culture et au code de la bourgeoisie aisée. Grâce à sa maman, très jeune, Chopin se retrouve devant un piano et il ne faut pas très longtemps pour découvrir que le petit Frédéric est extrêmement doué. C'est un enfant prodige qui développe à toute allure sa propre technique, son propre jeu, sans suivre une méthode rigide, presque en autodidacte. Le résultat est stupéfiant. À 8 ans, Chopin est déjà un virtuose qu'on se bat pour écouter dans le cadre feutré des salons de Varsovie, un peu comme Mozart en son temps. Mais là où le père de Mozart avait baladé son fils aux quatre coins de l'Europe, presque comme une bête curieuse, les Chopin décident de protéger leur fils qui grandit normalement. Chopin est un prodige, mais un prodige que l'on n'oblige jamais à se produire dans de grandes salles de concert. En 1830, la grande histoire bouleverse celle de Chopin. Alors qu'il est installé à Vienne depuis quelques mois, la Pologne se révolte contre l'absolutisme du tsar Nicolas Ier de Russie, qui réagit en réprimant violemment la révolte populaire. Comme beaucoup d'autres Polonais, Frédéric Chopin se tourne alors vers le pays de son père, la France. Assez vite, il s'impose comme une figure de premier plan de la scène culturelle et musicale parisienne. Sa virtuosité, son toucher et son jeu exceptionnel en font vite l'égal d'un autre pianiste de génie, dont il devient d'ailleurs très vite l'ami, le Hongrois Franz Liszt, qui a le même âge que lui. Les deux musiciens sont aussi doués l'un que l'autre. Leur jeu est aussi incroyable techniquement, mais leur style et leur composition, très différentes, reflètent deux faces du courant romantique. Franz Liszt, c'est la fougue et la puissance. Chopin, c'est la douceur, la délicatesse et la mélancolie qui s'expriment dans ses célèbres études, toutes plus dures à exécuter les unes que les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, Mathieu, mais c'est,
oui,
c'est
mais très difficile. Chopin, j'ai essayé, oui. Mais Liszt, là, c'est encore plus dur, à mon avis, Stéphane.
Mais il n'y a pas que leur style qui distingue les deux hommes. Franz Liszt, comme Mozart avant lui, a été un enfant star, rodé au spectacle et à la foule depuis son plus jeune âge. C'est une bête de scène habituée à livrer concert sur concert devant des salles combles. Chopin, c'est tout l'inverse. D'abord, il a toujours été d'un tempérament timide. Mais c'est aussi un jeune homme fragile à cause d'une vilaine maladie des poumons qu'il traîne depuis des années. La maladie qui l'épuise s'ajoute à la tristesse de l'exil, loin de sa Pologne qu'il aime tant. Alors, très peu pour lui les concerts. Il préfère vivre en composant, en donnant des leçons aux femmes et aux enfants de bonne famille, et en organisant de petits concerts privés chez lui ou dans les salons de la haute société. Des concerts privés, en somme, qui se tiennent à la lueur tremblante des bougies sur un piano volontairement laissé dans l'ombre, le plus souvent un Pleyel, que Chopin apprécie pour ses sonorités subtiles et douces. Non seulement cela lui suffit pour vivre tout à fait confortablement, mais c'est là qu'il croise l'amour de sa vie, celle qui va devenir sa compagne pendant 8 ans, Aurore Dupin, ou plutôt George Sand, romancière, féministe et femme de lettres, qui est alors au sommet de son art et qui tombe amoureuse de ce virtuose qui incarne si bien le courant romantique. Pendant que Franz Liszt sillonne l'Europe, Chopin reste un sédentaire qui donne bien quelques récitals dans de grandes salles, un par an tout au plus, mais qui écrit ceci à son ami Franz. « Je ne suis pas propre à donner des concerts, moi, que le public intimide et qui me sent asphyxié par ses haleines, paralysé par ses regards curieux, muet devant ses visages étrangers. » George Sand ne dit pas autre chose. Dans une lettre à une amie, elle confie à propos de son compagnon « Il ne veut pas d'affiches, il ne veut pas de programme, il ne veut pas de public, il ne veut pas qu'on en parle. Il est effrayé par tant de choses que je lui propose de jouer sans chandelle et sans auditeur sur un piano muet. » Moqueuse et pas tendre avec lui, c'est vrai. C'est tout le paradoxe d'ailleurs de la relation entre Frédéric Chopin et George Sand. Ils s'adorent, mais la maladie du pianiste pèse sur leur relation. La tuberculose le rend angoissé et difficile à supporter. Et leur union, qui ressemble de plus en plus à la relation d'une mère et d'un enfant capricieux, commence à en souffrir. Pour ne rien arranger, la santé de Chopin se dégrade brusquement en 1838. Cette année-là, George Sand et lui décident d'aller passer l'hiver sur l'île de Majorque, au monastère de Valdemossa. C'est une très mauvaise idée parce que le cadre des Baléares est enchanteur, mais il faut dire que l'île est particulièrement humide en hiver, ce qui, il faut le dire, n'est jamais très bon quand vous souffrez de la tuberculose. Une fois de retour à Paris, Chopin se rétablit, mais l'ombre de la tuberculose ne le laisse jamais en paix, ce qui dégrade encore plus sa relation avec George Sand. C'est d'ailleurs visible dans les lettres qu'elle lui envoie et qui commencent d'abord par « mon cher malade » avant de continuer avec « mon petit souffreteux » pour aller carrément à « mon cher cadavre » lorsque la santé de Chopin commence vraiment à vaciller. En 1848, à 38 ans, Chopin finit par rompre avec George Sand. Le moment est très dur pour le compositeur qui accepte pourtant, malgré le trac et la fatigue de la maladie, d'entamer une tournée de 7 mois en Angleterre et en Écosse à la demande d'une de ses anciennes élèves. Chopin arrive alors à Londres en avril 1848, une ville dont l'air est chargé de la poussière de charbon rejetée par toutes les usines qui poussent comme des champignons en pleine révolution industrielle. Chopin parvient à donner quelques concerts pour la fine fleur de l'aristocratie anglaise et joue même devant la reine Victoria et le prince Albert, mais le voyage et les représentations l'épuisent. Une fois encore, le trac le gagne et il se sent oppressé par la foule et les applaudissements. Ils finiront par m'étouffer par leur gentillesse et moi par gentillesse, je les laisserai faire, expliquera-t-il. Son état s'aggrave et Chopin, contraint de rentrer en France où il vit des moments terribles sans pouvoir quitter le lit ou le sofa, continue de donner quelques leçons. Mais le 17 octobre 1849, Frédéric Chopin s'éteint chez lui, au 12 Place Vendôme, à 39 ans seulement, entouré par ses amis et sa sœur Ludwika. Il est enterré quelques jours plus tard, au son de sa propre musique, la célèbre marche funèbre. Un dernier concert, en somme, devant une foule silencieuse et nombreuse, qui cette fois ne pouvait plus lui faire peur.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Chopin, nous sommes avec l'écrivain Jean-Yves Clément qui lui a consacré non pas un mais deux ouvrages. Bonjour Jean-Yves Clément.
Bonjour.
Bonjour Jean-Yves Clément. Bonjour. Vous êtes écrivain, critique, éditeur, aussi directeur du Nohant Festival Chopin à Nohant, la fameuse là où se trouve la maison de George Sand. Vous avez effectivement consacré 2 livres à Chopin, dont Le Retour de Majorque, journal de Frédéric Chopin, paru chez Pierre-Guillaume de Roux. Un faux journal, comme vous le décrivez, écrit pourtant à la première personne. Pourquoi vous mettre ainsi dans la peau de Frédéric Chopin? Pourquoi, comme vous le dites, Chopin parle votre langue, ou c'était pour souffrir avec Chopin?
Ou c'est peut-être lui qui est venu en moi, hein, qui sait. Je sais pas, cette complicité date de ma jeunesse où j'allais, moi je suis né à Bourges, j'allais à Nohant un peu en pèlerinage, comme vers le Graal, sans me douter qu'un jour je reprendrais la direction de ce festival. Je suis pianiste d'origine, et de fil en aiguille, j'ai appris à l'aimer passionnément de plus en plus, et en fait, même finalement, à écrire sur lui, ce qui semble une gageure majeur pour quelqu'un d'aussi silencieux, d'aussi secret, d'aussi peu littéraire. Mais ça s'est fait comme ça, naturellement et mystérieusement.
Et justement, quels sont vos... il n'était pas bavard, quelles sont vos sources?
Ben, mes sources, c'est quand même tout ce qu'on sait sur lui, c'est la correspondance, malgré tout. Voilà, c'est aussi le témoignage de Franz Liszt, qui lui a consacré une merveilleuse biographie. On a aussi le journal, de, si je puis dire, de Georges Sand, Un hiver à Majorque, qui décrit bien les faits, etc. Après, le sujet pour moi, c'était aussi d'interpréter ce recueil si fondamental des préludes de Chopin. Il y a un peu une mise en abîme dans le livre. Le voyage est un prétexte à creuser cette musique que j'interprète, moi, pour le coup, avec des mots, quoi.
Votre livre concerne surtout le voyage de l'artiste et de Georges Sand à Majorque de Majorque à Nohant, c'était en 1839.
C'est le retour, oui.
Le retour. C'est la phase la plus sombre, parce que c'est vrai que ça a été terrible à Majorque, et puis le retour, et il est rongé par la maladie. Pourquoi vous avez choisi cette période-là, qui au fond n'est pas la plus joyeuse?
C'est très laborieux, c'est aussi un truc d'écrivain, ça lui permet de se remémorer le pourquoi des conditions de son arrivée à Majorque, et ce qu'il y a fait, en particulier, ces fameux préludes que j'égrène 24 fois, jour par jour, si je puis dire, jusqu'à l'arrivée à Nohant, que j'aime tant aussi symboliquement. C'est arrivé à Nohant, pour moi, c'est une arrivée, si ce n'est au paradis, en tout cas c'est une deuxième vie, après les noirceurs de Majorque, le soleil, le bonheur, la joie de vivre de Nohant, et donc il y a vraiment un pèlerinage.
Dans votre livre, vous faites dire à Chopin « J'aurais rendu dans ma vie plus de visites au corps médical que je n'aurais donné de concert ». C'était, on l'a compris avec le récit de Stéphane, vraiment pas un showman. On sait combien il a donné de concerts, Chopin ?
Alors, grosso modo, entre 20 et 30, guère plus. Imaginez, Liszt en a donné peut-être 1000. Et lui, 20, 30, oui, ben il aimait pas ça, il abhorrait ça, il se sentait pas prêt pour ça. Lui, il se vit que comme compositeur, comme créateur, Chopin. Il se trouve que c'est un immense pianiste, un virtuose considérable. Donc, il a joué le jeu, mais pour créer aussi ses œuvres, pas pour jouer les autres. Ça, ce sera Liszt. Chopin, il se plie aux formes traditionnelles du concert. Donc, il accepte de rentrer dedans, mais sans plus. Liszt fera exploser tout ça. Et lui sera le showman dont vous parlez. Mais Chopin, oui, c'est pas cette tasse de thé. Il aime pas ça. Il aime les ambiances feutrées et intimes.
Petite question complètement anachronique, certainement, mais est-ce que cette rareté, ça a contribué aussi à la fascination autour de Chopin? Je sais pas, comme les Daft Punk.
Absolument. Parce que quand il arrive à Paris, Liszt est connu par sa présence ahurissante, et Chopin le sera par son absence. Donc d'un seul coup, une légende naîtra, parce qu'on le verra très peu. Et tout le monde s'en plaindra, mais tout le monde en même temps sera subjugué par cette absence en creux, même si on connaîtra sa musique en revanche.
Eh bien, on continue à parler de nos personnages qui ont le trac, et de Frédéric Chopin en particulier, avec notre invité Jean-Yves Clément sur Europe 1. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Contrairement à Stéphane Bern, qui lui n'a jamais le trac, nos personnages du jour ont le trac. Ça les définit. On parle de Frédéric Chopin avec notre invité, l'écrivain et critique Jean-Yves Clément, qui a publié justement Le Retour de Majorque, journal de Frédéric Chopin. Alors dans ce journal, vous dites, enfin Chopin dit, j'ai besoin de tranquillité, même d'une certaine monotonie. Et puis il y aura Paris bientôt, Paris que j'espère et que je crains, avec ses mondanités sans fin mais par lesquelles il faut passer. Paris dont j'ai mis l'esprit dans la plupart de mes valses, loin de celles de Vienne. Paris et ses concerts auxquels je me prête et que j'aborde. Moi, je suis l'homme des salons, ils me suffisent. En quoi cette crainte des concerts et ce trac reflètent la personnalité de Chopin? Ça dit quoi de lui?
Ça dit ce qu'il est de purement musicien. Tout ce qui est spectacle, tout ce qui est de l'ordre du spectaculaire lui est étranger. Pour lui, le concert, c'est même la négation de la musique. Il l'écrit.
Concert et la négation de la musique.
Oui, il l'écrit pour lui-même, pour l'autre, le proche, le salon lui va très bien, la famille. Et pour l'art, c'est le pur des purs, Chopin, comme Mozart. Rien d'autre ne l'intéresse. Et puis sa constitution l'interdit, en plus, de se livrer à des débauches physiques comme ça, comme celle de Liszt, et de jouer devant des grandes salles. C'est impossible. Il n'y en a pas les capacités. Donc tout ça forme un tout. Et Chopin le vit un peu comme on vivrait dans un berceau et comme on vivrait dans une tombe à la fin, dans son seul piano, qui à mon avis l'enferme et finit par l'étouffer à la fois. C'est tout un symbole. Le contraire de Liszt, qui sert du piano comme un destrier pour aller dans le monde. Chopin, lui, se réfugie dans le monde.
Sa coquille.
Une force centripète d'un côté, on dirait, et centrifuge de l'autre. Donc deux opposés, contraires.
Vous dites d'ailleurs, vous écrivez dans votre livre, la peur est notre plus fidèle destrier. Et on trouve à la peur des vertus chez Chopin. Est-ce que ça a été un moteur pour sa vie d'artiste ou au contraire, ça l'a desservi?
Certainement, il l'aura vécu dans sa chair. Non, ça l'aura inspiré. Il y a la fuite de Varsovie devant l'insurrection russe. il y a cette errance avant d'arriver à Paris. Et puis il y a Majorque, c'est aussi pour ça que ce passage m'a plu, qui révèle sa noirceur et puis qui donne des œuvres très très nouvelles. La sonate funèbre viendra d'elle certainement, et ses préludes sur lesquels moi je m'étends et qui me fascinent et qui montrent l'aspect déchiré, très très morbide de Chopin, de façon presque quasi schizophrénique, et qui étonnait tant Georges Sand.
Dans la musique pop, il y avait à une époque ceux qui étaient pour les Beatles, ceux qui étaient pour les Stones. Est-ce que dans le classique, on peut aimer à la fois Chopin et Liszt?
Moi, oui, puisque je suis en train de finir un livre qui les renie tous les deux. On peut aimer des contraires, mais ce sont effectivement des opposés.
Mais qui s'entendaient bien.
Complémentaires. Ils s'entendaient pendant un temps. Au bout d'un moment, les femmes, comme Marie Dagout, Georges Sand, dans Mille Bazars, et ça a fini par se distendre. Et puis, les caractères étaient tellement différents que ça ne pouvait que se séparer. Liszt allant, de toute façon, vers l'Europe, sur son cheval piano, et l'autre restant dans son intériorité. C'est pas des hommes qui pouvaient communiquer comme ça très, très longtemps. Mais Liszt lui a rendu beaucoup d'hommages ad vitam dans ses œuvres, et puis dans ce livre qu'il a écrit sur lui, c'est quand même quelque chose de notable.
Mais justement, ils étaient complémentaires, mais il y a aussi cette dualité qu'on retrouve chez Chopin. Vous le dites, d'ailleurs, vous avez publié Les deux âmes de Chopin. C'est quoi cette dualité qui est en lui?
Elle est déjà au départ, puisque son père est français, sa mère est polonaise. Ouais. Lui-même, il s'enfuit en France, il va y vivre la moitié de sa vie. Il y a toujours des idées de séparation, comme ça, de double chez Chopin. Et puis, il y a surtout ce caractère double, quasi bipolaire, que je trouve, moi, dans les préludes, où le premier prélude est très joyeux, extrême, presque dans son ivresse, et puis le second exprime une noirceur abyssale, et c'est comme ça jusqu'à la fin du cahier. Il y a vraiment un aspect, et pour les pianistes c'est redoutable d'ailleurs, de passer d'un état si heureux à un état si sombre en 30 secondes presque, et puis ainsi de suite. Donc ça appartient vraiment à sa psyché, c'est très étonnant à ce point. Même si nous avons tous deux âmes en nous, hein, comme dirait Faust, comme disait Pascal, mais chez Chopin ça prend une ampleur particulière.
Moi, je m'étais mis au piano quand j'étais jeune pour, on va dire la vérité, pour draguer des filles. Est-ce que Chopin, ça lui a permis de draguer des filles, le piano? On dit souvent que chacune de ses compositions est dédiée, pensée pour une femme. Est-ce que ça a marché, ou est-ce que...
Non, dédié plutôt à des aristocrates. Il en avait besoin. Il était assez intéressé dans la démarche. C'est lui qui draguait les filles, comme vous dites, c'est plutôt Liszt.
Ah, c'est plutôt Liszt, d'accord.
En l'occurrence, si l'on veut, quoique tout ça est aussi très exagéré. Non, Chopin, c'est pas du tout le genre, hein. C'est pas...
Il n'a jamais composé pour une femme. Enfin, genre, il n'a jamais dédié...
Écoutez, ce qui est très curieux, c'est que ce Goujat n'a dédié aucune œuvre à Georges Sand.
Oh, ça c'est... Alors, c'est le monde de la Goujaterie.
Il a dédié volontiers à des aristocrates, des comtesses, des amis de passage, sa fiancée de l'époque. Mais Georges Sand, qui lui a dédié la Mare au Diable, quand même, n'a eu aucune partition en offrande, ce qui est quand même très étonnant et bizarre, et pas très glorieux.
J'avais une question qui sort un peu de ce qu'on se dit sur Frédéric Chopin. Il avait le tract, certes, il détestait les concerts. Ça se traduisait comment physiquement, je veux dire? C'est-à-dire, est-ce que, en dehors du fait qu'il souffrait de tuberculose, il avait des vomissements, il se nourrissait plus pendant 3 jours avant un concert?
Oui, ça, les peurs d'avant, sans doute, mais pendant, ça allait, je pense, parce que son niveau pianistique était tel qu'il transcendait toute peur. Mais après, on l'entendait peu en même temps. Tout le monde se plaint un peu du manque de projection de son art en scène, parce qu'en plus, ses ressources physiques ne lui permettaient pas de... Alors même si on l'appréciait beaucoup, mais pour des qualités un peu dont on dit l'Ariel, l'elfe, le Raphaël de la musique, on a toujours des évocations comme ça très légères, pointillistes, à la différence de Liszt. D'ailleurs Chopin disait Liszt, au moins toi si t'attrapes pas les auditeurs, t'as de quoi les assommer. On voit très bien ce qu'il dit de Liszt et ce qu'il dit de lui aussi, en creux. Voilà, oui, mais c'était un pianiste considérable, mais pas un pianiste fait pour ce qu'on connaît très aujourd'hui du récital, du concert.
C'est pas Katia Bugnati-Gilli, vous voyez, c'est pas le type qui fait le show, quoi.
Non, bien sûr que non.
En revanche, c'est vrai qu'il était plus dans l'intimité avec ses élèves, avec...
La confidence, l'intériorité, la pureté, la nécessité de la musique elle-même. C'est le compositeur le plus secret, le plus sacré, je dirais, de la musique en ce sens.
C'était un intellectuel, Chopin, ou c'était un rapport physiologique à la musique?
Liszt était un intellectuel, Sand était un intellectuel, ils s'entendaient très bien tous les deux, d'ailleurs, ils ont dévoré des livres. Chopin était un voltairien, comme son père, il était intelligent, très affûté, très bourgeois, comme ça, mais pas, il dévorait pas la littérature de son temps du tout, ni l'art de son temps, ni la musique de son temps. Au contraire, tout ça l'effrayait et il n'en voulait pas non plus. C'était une espèce de conservateur qui aimait, c'était pas Mozart, machin et moi, c'était Bach, Mozart et c'est tout.
Des points bas. Alors, vous êtes Jean-Yves Clément, un des organisateurs du Nohant Festival Chopin, qui a plus de 50 ans. Paradoxe, quand on connaît la version de Chopin pour les concerts, ou vous considérez que sa musique, au contraire, sa musique en tout cas, pas lui, mais sa musique est taillée pour les concerts.
Sa musique est très virtuose, et même quand il a joué lui-même, en tout cas au début, avant qu'il cesse de le faire, et Liszt a été le premier missionnaire des études de Chopin, qui sont si redoutables que vous évoquiez. Sa musique est faite quand même pour les grands salles. C'est ça le paradoxe. C'est une musique qui projette, c'est une musique très puissante. Il invente aussi, lui, quand même, le piano moderne. C'est une musique qui peut même être orchestrale. Mais vous savez, l'œuvre et l'homme, ce sont deux choses très différentes. Ravel était un piètre pianiste, Debussy moyen, quoique tout le monde n'est pas Rachmaninoff, qui lui était un grand pianiste, ou Liszt. Schubert était un très mauvais pianiste. C'est deux choses différentes. Mais la musique de Chopin est puissante et peut être jouée par les grandes salles et dans les festivals comme à Nohant.
Comme à Nohant, surtout que le lieu a son importance, là, en l'occurrence.
Oui,
c'est là qu'il a composé ses plus grands chefs-d'œuvre.
C'est à côté, à 10 mètres, c'est l'ancienne bergerie du domaine, il y a 400 places, en plus on est quand même dans l'intime, si on veut, et effectivement, vous avez raison, c'est pas non plus une grande salle.
Et puis l'endroit, il faut quand même, le rappeler.
L'endroit est magique.
C'est une maison d'illustre.
À 20 km de Châteauroux, en plein cœur du Berry, ça reste d'une simplicité, ça a un naturel.
La cuisine, moi j'ai un souvenir de cette cuisine, on a l'impression qu'on y est, la salle à manger, la chambre, le petit salon, et puis là, derrière, dans le jardin, c'est très émouvant.
C'est pas un musée,
parce que
c'est une maison vivante.
Ouais, hein. On a l'impression qu'elle est là, en train de faire des confitures avec sa grand-mère.
Mais elle est peut-être là, Stéphane.
Oui, elle est là, je suis sûr.
Et dans l'atelier, je vais vous laisser, messieurs, vous allez partir très loin.
Et puis Flaubert, Delacroix, imaginez Théophile Gauthier, Liszt, Delacroix,
ils sont tous
venus. Quand
ils sont tous là.
Même la maman. Alors, merci en tout cas Jean-Yves Clément, parce que vos livres, évidemment, apportent beaucoup pour comprendre qui était Frédéric Chopin, Le Retour de Majorque, Journal de Frédéric Chopin, et puis Les Deux Âmes de Chopin. Le premier est publié chez Pierre-Guillaume Deroux. On attend avec impatience l'édition 2021 du Nohant Festival Chopin. On est en croisant
les
doigts.
Croisant
tous les doigts.
Merci à vous.
Merci.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires dans des chroniques qui feront date, assurément. Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, parce que toute cette semaine, on célèbre une date, celle de la mort de Napoléon il y a tout juste 200 ans. Chaque jour, Clémentine, vous lui redonnez vie. Et en ce lundi 3 mai, c'est le premier épisode dans l'intimité de Napoléon où vous nous dévoilez les lettres d'amour qu'il a écrites à Joséphine et celles moins nombreuses qu'il a reçues d'elle.
fameuses, si belles, ces lettres si troublantes, si brûlantes. Vous savez que Napoléon, c'est très longtemps rêvé écrivain. Il a rédigé plusieurs essais et notamment un torride roman d'amour. Je vois, vous l'ignoriez, Mathieu.
Totalement, oui.
Alors que son écriture est illisible.
Ah oui, ah,
mais très difficilement lisible.
Mais lorsqu'il écrit Eugénie et Clisson, ce roman d'amour, ça c'est à l'été 1795, il écrit ça essentiellement pour lui, ça n'a pas été promis à une destinée éditoriale grandiose. Mais il rencontre Joséphine quelques mois plus tard, en octobre. Donc, au lendemain de leur première nuit d'amour, quand il prend la plume, écrire des lettres brûlantes, pour lui ça n'est qu'une formalité, il vient de le faire quelques mois avant dans un roman, et en plus, il est super doué pour ça, il a vraiment un talent hors du commun pour sublimer l'amour quand il écrit. Et donc, ses lettres d'amour sont parmi les plus belles jamais écrites en langue française, naturellement. Il y a celle que tous les Français, je pense, connaissent. C'est comme le corbeau et le renard. « Mio dolce amor reçoit un millier de baisers, mais ne m'en donne pas, car il brûle mon sang, il brûle mon sang. » Cette image est tellement magnifique, on dirait du Racine, du Corneille, c'est superbe. Alors, et ça, c'est la première, mais il va lui envoyer des dizaines d'autres, elle en reçoit tous les jours. Il lui écrit notamment, je trouve ça extrêmement joli, « Le sommeil me console, il te place à mes côtés. Je lis tes lettres comme on dévore après 6 heures de chasse un mec qu'on aime. » Alors, on ignore ce que Joséphine lui répondait à cette époque, parce qu'on possède moins d'une dizaine de lettres de sa main à Napoléon. On pense que peut-être il les a brûlées dans une de ces terribles crises de jalousie qui était, ma foi, évidemment, on le sait, bien justifiée. Mais enfin, on se doute que ces lettres n'avaient rien du caractère passionné de celles de Napoléon, parce que ce qui caractérise cette correspondance, naturellement, c'est le déséquilibre complet. Hein. Parce que alors, lui, il écrit ça, tes baisers brûlent mon sang, mais pendant ce temps-là, elle est plutôt indifférente, elle lui est infidèle pendant la campagne d'Italie, puis pendant qu'il est en Égypte. Et les lettres de Napoléon, nombreuses, donc, reflètent bien ce déséquilibre. Ta dernière lettre est froide comme l'amitié. C'est magnifique, ça aussi, froide comme l'amitié. Je t'écris, ma bonne amie, bien souvent, et toi, bien peu. J'arrive à Milan, je me précipite dans ton appartement, j'ai tout quitté pour te voir, te presser dans mes bras, tu n'y étais pas. Tu cours les villes avec des fêtes, tu t'éloignes de moi lorsque j'arrive, tu ne te soucies plus de ton cher Napoléon. Un caprice te l'a fait aimer, l'inconstance te le rend indifférent. Bon, alors là, il faut dire que lui, il est complètement ferré, il est subjugué, il est envoûté.
Il ne la trompe pas, lui ?
Ah bah si, alors en Égypte notamment aussi, bah d'accord, mais pas au début sans doute. Vous savez, c'est comme Victor Hugo. Victor Hugo, c'est pas Victor Hugo, il a possédé 1000 femmes, mais c'est sa femme, Adèle, qui a commencé à le tromper avec Sainte-Beuve. Enfin, c'était un ratage complet. Mais enfin, elle a mis le feu aux poudres, et là, d'une certaine manière, Joséphine aussi. Alors, Napoléon a été fasciné parce que, d'abord, il la trouve extrêmement douée au lit. Hein. Il dira d'elle, elle était pleine de grâce au lit comme ailleurs. Il faut dire qu'elle est une femme expérimentée, c'est une femme mariée. Elle a été l'épouse d'Alexandre de Beauharnais, qui était un libertin notoire, dont on dit qu'il a probablement servi de modèle au Valmont des liaisons dangereuses, donc lui il en connaissait un morceau, et Joséphine aussi, et d'ailleurs on peut en juger par le caractère absolument érotique et torride également que lui adresse Bonaparte depuis l'Italie. On en déduit que les jeunes mariés avaient des nuits agitées pour ne pas dire torride, hein. Baiser à la bouche, aux yeux, sur l'épaule, au sein, partout, hein. Et alors j'en passe, et des meilleurs, hein. Je vous renvoie à la réédition de leur correspondance. Bon. Donc, vous voyez, c'est des lettres comme ça, au début de leur mariage, Napoléon est en Italie, puis en Égypte, elle en reçoit quasiment tous les jours. Et du coup, elle dit à sa grande copine, madame Italien, mon mari ne m'aime pas, il m'adore. Je crois qu'il deviendra fou. Et avec le temps, c'est très amusant de voir comment la tonalité de la correspondance change, y compris du côté de Napoléon, parce qu'il signe toutes ces lettres. Adieu mon ami, je t'aime et t'embrasse. Alors vous avez 10 lettres à la suite comme ça. Adieu mon ami, je t'aime et t'embrasse. Adieu mon ami, je t'aime et t'embrasse. Tout à toi, tout à toi. Et puis il y a une véritable inversion de la situation. Après 7 ans de mariage en 1803, c'est à présent Joséphine qui est demandeuse. C'est elle qui a peur que Napoléon la quitte. Elle lui écrit, je veux toujours être à tes yeux, la bonne, la tendre Joséphine, occupée uniquement à ton bonheur. Bah, tu parles avec le temps. Non seulement elle s'est authentiquement attachée à lui, bien sûr, mais c'est plus des lettres d'épouse et d'amis, c'est pas des lettres, on n'en est plus à ne donne pas de baiser parce qu'il brûle mon sang. Hein. Et d'ailleurs, de fait, lui, il va peu à peu se détacher d'elle, elle l'a tellement trompé. Et puis aussi, pour la raison que l'on sait, le besoin de créer, de fonder une dynastie, mais il ne lui ôtera jamais son affection, ses attentions, il sera toujours plein d'égards pour elle. Ces dames d'honneur ont pu témoigner qu'à la malmaison, il lui donnait des petites tapes affectueuses, il l'appelait ma grosse bête. Hein. C'est plus le début de leurs amas, ma grosse bête. Mais enfin, bien après leur divorce, leurs relations resteront empreintes de tendresse et d'amitié sincère. Et la dernière lettre de Napoléon à Joséphine date du 16 avril 1814. Elle est écrite de Fontainebleau. Il ne la reverra jamais, puisque quand il rentre de l'île d'Elbe pour les 100 jours, elle est morte. Adieu. Ma chère Joséphine, résignez-vous ainsi que moi et ne perdez jamais le souvenir de celui qui ne vous a jamais oublié et ne vous oubliera jamais. Et la vérité de ce couple, c'est sans doute ça, c'est cette complicité et cet amour qui avait été grand, même s'il y avait un petit retard à l'allumage du côté de Joséphine.
Je croyais que c'était un amour complètement déséquilibré. Je ne pensais pas qu'il y avait une réciprocité.
Pour vous, il y a une réciprocité. Et puis surtout, vous savez, en plus, tous ceux qui ont côtoyé Bonaparte, Napoléon, ont été fascinés, ont eu bien conscience du fait qu'ils étaient en train de croiser un homme exceptionnel, de ces comètes comme il n'en passe qu'une dizaine dans l'histoire de l'humanité. Tout le monde, il n'y a pas une personne qui l'a côtoyé qui n'ait pas écrit ses souvenirs. Même le mamelouk Roustan, là, il écrit « Oh, l'empereur m'a donné une belle culotte de peau, un costume rouge, une selle verte. » Enfin, il a pas grand chose à raconter d'autre que ça, mais il écrit aussi ses souvenirs. Et je pense que elle a été aussi conquise par l'étoile montante.
Oui. Son aura.
On sent que c'est pas parce qu'il paraît que quand il faisait l'amour, dans le petit pavillon de la rue Chantraine, on entendait on était à deux doigts de le plafond de s'effondre parce qu'il faisait l'amour à la hussarde, Napoléon.
C'est des détails comme ça que Stéphane aurait aimé dans votre chronique. Il attendait plus.
Oui, mais là, on était au détail croustillant. Justement, Clémentine, demain est un autre jour. On va continuer demain à parler de Napoléon. Sur quel thème?
Alors là, je vous parlerai de ses petites manies, parce qu'il en avait de très nombreuses, vous verrez.
Il avait des tocs?
Oui, Napoléon tout à fait. Il avait des tocs autour de la propreté. Il avait des rituels, bien sûr. Oui, c'est vrai.
Il aimait la propreté.
Ah oui, c'était un maniaque de la propreté. Même... Et il aimait beaucoup pétuner.
Pétuner. Qu'est-ce à dire?
Réponse demain.
Ça, c'est
suspense.
Pour l'instant, nous allons découvrir qui de vous deux sera sacré empereur du quiz. À tout de suite pour Bern to be alive.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
En temps normal, lorsqu'il s'apprête à disputer une compétition, les gens ont le trac. Pourtant, chaque après-midi, quand elle s'apprête à défier Stéphane Bern sur le terrain miné de la connaissance, Clémentine Portier-Kadenbach semble relativement confiante. Peut-être parce qu'elle compte 112 victoires et lui seulement 24. Jouons à Bern to be alive. Stéphane,
première question.
J'aimerais débuter en évoquant Blaise Sandrart, écrivain suisse, naturalisé français en 1916. Pour lui, je cite, « Écrire, ce n'est pas vivre, mais c'est peut-être survivre. » Quelle était sa particularité physique? Il n'avait pas de main droite? Il n'avait pas de pied gauche? Ou il n'avait pas de majeur aux deux mains?
Il avait un visage. Moi, j'ai son visage en tête très, très...
Son visage ne vous sera d'aucune utilité dans cette question.
Est-ce qu'il n'avait pas de main droite?
Je pense qu'on est... Peut-être qu'il n'y avait pas de majeur.
Est-ce qu'il aurait pu perdre sa main pendant la guerre de 14? Parce que c'est un auteur de l'entre-deux-guerres. Okay. Il aurait pu être blessé en 14.
Oui, il a pu être blessé. Oui,
parce que les deux majeurs, ça paraît curieux. Il ne vous manque pas de majeur.
C'est une maladie, vous savez qui est.
Une maladie où les deux majeurs seraient tombés.
Ce qui est dommage quand vous êtes au feu rouge.
Il lui manquait... Il lui aurait manqué un pied, ce qu'il boitait, Blaise Sandrart. Il a quand même. C'est un auteur de récits de voyage.
Je dirais la main.
Moi, c'est ce que j'aurais dit.
Main droite,
oui.
Vous avez gagné.
Ah, voilà.
C'est une bonne réponse et c'est un point, me signale-t-on en régie, qui va directement dans l'escarcelle de Clémentine, puisqu'elle vous l'a soufflé. Pas de main droite. Dommage, Stéphane.
On peut s'expliquer avec.
pas d'explication.
Faites-moi un petit chèque et on en parle
ensuite.
Plus.
Mais pour l'instant, c'est ainsi.
Elle a bon dos, la régie.
Alors attendez, je vais demander en régie s'ils assument leur décision, quitte à voir leur contrat non renouvelé pour la saison suivante. On assume en régie. Donc là, ils sont deux assumés, notre rédacteur en chef et le
réalisateur. Je vais répondre aux questions de Clémentine. Vous aurez ces points.
Le cas échéant, vous bénéficierez de ce point.
Bien sûr.
Écoutez, Blaise Sandrart, engagé volontaire, il prend une rafale de mitrailleuse en 1915, amputée au-dessous du coude droit. On le surnommera le poète à la main gauche. On lui doit également, il écrit de très belles choses, Blaise, mais on lui doit également cette phrase, c'est ma préférée, c'est authentique, « Femme qui pète n'est pas morte ».
Oh oui, alors ça m'étonne pas de vous. Moi, je vais vous dire, c'est la plus belle phrase de Blaise Sandrart. C'est pas ça. C'est un jour une dame qui lui dit, vous faites des récits de voyage, monsieur Sandrart. Vous parlez de pays où vous n'avez jamais mis les pieds. Et lui répond, mais madame, qu'est-ce que ça peut vous foutre puisque je vous y ai emmené? Voilà.
Magnifique.
Alors, allez vous rhabiller avec votre citation à la noix, là. Allez, question.
Femme qui pète n'est pas morte, ça sonne bien. Question numéro 2 pour vous, Clémentine, sachant que c'est une nouvelle règle qui vient d'être créée dans le quiz. Votre concurrent peut donner la réponse avant vous. Histoire de la danse, j'aimerais vous tutoyer, Clémentine, on se connaît depuis suffisamment longtemps maintenant, et vous poser la question suivante. Sais-tu danser la carioca? On se souvient d'Alain Chabat et Gérard Darmon dans La Cité de la Peur, mais bien avant eux, Ginger Rogers et Fred Astaire ont eux aussi, au cinéma, dansé la carioca. Vrai ou faux?
Ginger Rogers et Fred Astaire ont dansé la carioca?
C'est la question que je vous pose.
C'est ça votre question d'histoire?
Oui. Là, on est dans l'histoire.
C'est vrai.
Vous avez les images en tête?
Oui.
On les voit danser.
Ils dansent, voilà. Ils sont
la
très
carioca. Donc vous avez vu aussi la Cité de la Peur.
Alors la carioca,
parce que les cariocas, c'est des gens qui habitent Rio et qui... c'est les habitants de Rio,
cariocas. Non, c'est pas les cariocas. C'est pas les cariocas.
C'est les... Mais j'ai pas l'impression qu'ils dansaient la samba. C'est les cariocas dansent la samba. Mais c'est pas une danse, la carioca. C'est un habitant de Rio.
La Carioca, c'est surtout une scène dont vous avez entendu un extrait, qui est une scène extraite de la Cité de la Peur, où Alain Chabat dégaine une trompette.
C'est lui qui aurait inventé le nom Carioca pour une danse. Et la danse avant ne s'appelle pas la Carioca, mais peut-être la Samba, la Rumba, là, ce que vous voulez.
Le vrai sens de ma question, c'est cette scène de la Carioca, cette scène culte pour une génération qui vivant n'est pas la vôtre.
Bah oui, c'est pour ça que c'est
dur. Est-ce que cette Carioca est une pure invention des nuls pour ce film, ou est-ce une danse qui non seulement existe, mais a été dansée par Fred Astaire et Didier Bourdon au cinéma?
Pour moi, c'est une pure invention.
Moi, je réponds
pure
non,
invention,
c'est
pure une invention. Invention ouais. Je rappelle que votre première réponse était que c'était vrai.
Vous avez perdu.
Vous avez réussi à vous planter grâce à mes explications.
Vous écoutez. Êtes dégueulasse.
Au revoir. La Carioca, c'était dans le film.
Mais vous
Flying
êtes vraiment
Down
un fan,
Rio,
hein. J'ai sorti... la bonne réponse et vous êtes là, vous échinez à me faire dire la mauvaise.
Des précisions historiques, vous n'avez
mais
pas l'air d'avoir
mais
très
c'est,
bien compris
mais c'est
la question.
Totalement. Enfin, écoutez, mais c'est
dans monstrueux. La cuisse, c'est la cuisse de pervers.
C'est dans le film Flying Down to Rio, sorti en 1933. Si vous êtes au bureau et que votre patron n'est pas dans le coin, allez voir ça sur Internet. C'est une grande classe qui a donc
plus,
inspiré les nuls.
En plus, Stéphane, évidemment, nous sont venus tout de suite des images de Ginger Rogers et Fred Astaire en train de danser des trucs comme ça, latino-américains. Bon,
vous
bah,
êtes,
écoutez, non,
débité.
Moi, vraiment, les bras m'en tombent, mais, le temps d'iniquité.
Comme dirait Blaise André, les mains m'en tombent.
Voilà qui effectivement relève le niveau. Bien joué Stéphane, question numéro 3 pour vous. 2007, c'était hier ou quasiment, mais c'est aussi de l'histoire, car c'est l'année de la commercialisation du tout premier iPhone. Une invention qui a bouleversé nos vies. Oui, quand il y a des questions vraiment très historiques, je vous les livre, Stéphane.
Oui.
Parce que,
voilà. Oui, en fait, c'est une question c'est un quiz de conso.
Exactement. Quiz conso, une invention qui a bouleversé nos vies, l'iPhone, c'était le premier téléphone à écran tactile. Vrai ou faux?
En 2007 ?
2007, ouais.
Oh, vous avez ça vraiment. Vous avez envie de savoir ça, Stéphane, franchement. Vous avez l'impression que ça manque à votre culture de savoir
populaire.
Si le premier iPhone tactile est de 2007. Moi, je pense
non.
qu'on a dans l'idée... Attention, Stéphane, parce qu'on a dans l'idée que c'est plus récent.
Oui.
Mais avec ce grand escogriffe,
oui,
ils
vrai.
Vont servir un prototype au
non,
Japon.
Non, mais c'est faux, ça a dû exister avant, déjà.
Bah, c'est oui. faux, c'est votre
c'est
réponse.
Faux. C'est faux.
C'est faux.
Vous avez...
Vous avez gagné, j'ai eu peur qu'ils attribuent encore le point une fois de plus à Clémentine qui vous avait soufflé la réponse, j'ai eu très peur,
elle
mais non, visiblement là ils n'osent plus, ils ne mouftent plus en régie, c'est faux, vous avez une bonne réponse. Le premier téléphone à écran tactile a été mis en vente bien avant 2007, c'était en 1994,
c'est fou.
Il s'appelait l'IBM Simon.
Il pesait 15 kilos.
Non, il coûtait $1000 en tout cas, donc à l'époque seul Stéphane pouvait l'acheter. Question numéro 4 pour vous Clémentine, quelle citation, je vais vous en donner 3, quelle citation est de Voltaire? C'est en leur tournant le dos que l'on triomphe des monstres qui nous habitent. Femme sage est plus que femme belle. Le roman est l'histoire du présent, tandis que l'histoire est le roman du passé.
C'est pas la dernière. La dernière, c'est de Balzac.
Y aura-t-il un point bonus pour
oui,
Stéphane?
Ah oui, ça le mériterait.
Nous verrons.
Et donc la première... Sur
la première, c'est en leur tournant le dos que l'on triomphe des monstres qui nous habitent.
Et la seconde, femme sage...
Femme sage est plus que femme belle.
Ça ressemble plus à du... Non, ça, c'est pas du La Fontaine. Lui, de toute façon, il aimait toutes les femmes qui passaient. Moi, je serais tentée de dire...
Il y en a combien de Voltaire?
Ouais, où elles sont toutes?
Une ou deux?
De Voltaire, il y en a une.
Une.
Celle du milieu, peut-être, alors... sur les femmes, alors.
Femme sage est plus que femme belle, c'est du Voltaire pour vous?
Cette phrase sur l'introversion ne me paraît pas tellement voltairienne et la dernière, Stéphane a l'air très
sûr. Mon conseil, toujours le même, ne réfléchissez pas trop, suivez votre instinct.
Bah, j'ai dit celle du milieu.
Vous avez dit la réponse 2.
Vous avez gagné!
Et c'est une bonne réponse, nous sommes à égalité, c'est parfait. Alors, dans le détail.
C'est vrai, ça,
c'est
une blague.
C'est en leur tournant le dos que l'on triomphe des monstres qui nous habitent. Ce n'est pas Voltaire, c'est
Rousseau?
Francis Lalanne.
Non.
Francis Lalanne. Vous avez confondu Rousseau et Francis Lalanne, ma foi, ça dénote votre intérêt pour la littérature. Le roman est l'histoire du présent, tandis que l'histoire est le roman du passé. Voilà que Stéphane nous a dit qu'il s'agissait d'une citation de Balzac.
Oui, Balzac ou Alexandre Dumas.
En tout cas, vous êtes d'accord, un des plus grands écrivains de l'histoire.
Oh là là, Stéphane, attention à la réponse.
Je l'ai réutilisé dans un de mes livres en l'attribuant à Balzac.
Alors, visiblement, vous l'avez réutilisé dans vos livres sans l'attribuer à qui que ce soit, puisqu'on me dit que c'est de Stéphane Bern.
Non, 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 non.
Vous avez cité
j'ai cité, bien
vous
sûr.
Vous êtes sûr de vous.
C'est sûr de moi.
On ira vérifier tout de même. Pas de point bonus en tout cas. Si comme moi vous aimez Voltaire ce soir, 21h05 sur France 3, c'est un secret d'histoire consacré à l'écrivain présenté par le zadig de l'histoire, Stéphane Bern. Question numéro 5, c'est la question qui va vous départager. Je rappelle cette nouvelle règle que nous avons inaugurée il y a quelques temps. Vous pouvez crier le numéro, le chiffre plutôt, de la bonne réponse, plutôt que de perdre du temps à la donner en entier. Vérifions vos connaissances en matière d'histoire et de pizza. J'aime terminer par une question sérieuse. En 1960, deux frères font l'acquisition d'une toute petite pizzeria dans le Michigan. L'un des deux frères vend ses parts, l'autre deviendra milliardaire grâce au succès de Domino's Pizza. C'est eux qui ont inventé la pizza livrée en 30 minutes. Au lieu de demander de l'argent, qu'a demandé le frère quand il s'est retiré de l'affaire ? 1. Une pizza livrée quand il veut, jusqu'à sa mort. 2. La voiture qui servait à livrer les pizzas. Ou 3. Le flipper qui était dans la boutique.
3.
Stéphane, on est bien d'accord.
Ça me fait rire.
On est bien d'accord, Stéphane, que pizza, vous avez répondu. Donc le type qui a créé Domino's Pizza, il était deux frères, hein, qui s'en va de l'affaire. Et ce qu'il a demandé en contrepartie n'est pas de l'argent, mais d'avoir une pizza livrée quand il veut jusqu'à sa mort.
Oui, je trouve ça drôle. Qu'est-ce que j'aurais fait ?
C'est une mauvaise réponse. Qui m'a dit ?
Vous m'avez dit le flipper, moi, qui était dans le...
Nous avons donc, une fois de plus, une double mauvaise réponse. Le type a demandé la voiture qui servait à livrer les pizzas. C'était en 1960 et aujourd'hui, Domino's Pizza, c'est 17 000 boutiques dans 86 pays. Voilà, il n'a pas fait le bon choix. Je ne vous dis pas de bravo, puisque une fois de plus, vous êtes censé être fort en histoire.
Et sinon, je découvre quand est-ce que vous ferez un vrai quiz historique?
Écoutez, peut-être pour la dernière de la saison.
D'accord.
Éventuellement.
Ça sera bien gentil à vous.
L'histoire
parce que
de
l'iPhone tactile de 94 et Domino's Pizza.
Ne soyez pas mauvais perdant.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement Vôtre, une émission 100% détente, sauf pour nos personnages du jour, hein, Mathieu.
Mais oui, Stéphane, ils étaient talentueux, ils étaient célèbres, le sont encore pour certains, mais en dépit de leur réussite professionnelle, il y a un problème qu'ils n'ont jamais réussi à surmonter, leur trace.
Oui, après Frédéric Chopin, je vous raconte l'histoire d'un autre artiste qui se transpirait à grosses gouttes avant le lever de rideau, Yves Montand, qui n'était pas la seule star du musical à paniquer en coulisses avant de monter sur scène.
Effectivement, Stéphane, Françoise Hardy non plus n'a jamais vraiment réussi à surmonter son trac. Je vous raconterai son destin dans un portrait, comme toujours, à 99% vrai. Et puis on lui passera un coup de fil afin que Stéphane lui révèle son secret contre le trac.
La drogue.
Le yoga. Le yoga, Stéphane, une méthode à la fois ne révélant pas tous vos petits secrets d'un coup. Eux aussi sont des gens par nature assez stressés, notamment David Castello-Lopez, qui lui, en plus, est névrosé et psychotimique et dépressif. Un stress qui manifeste toujours par d'étonnants borborygmes. Et aussi, mon vieux, tout va bien aujourd'hui, David ?
Tout va très très bien.
Quel est votre thème ?
On va remonter aux origines d'un être qui a aussi parfois le trac, surtout quand il est dans le même bureau que Mathieu Noël.
Oui, tout à fait. Ceux qui ont le trac, moi, j'ai rien contre eux. C'est ceux qui, au contraire, l'ont pas assez, moi, qui m'embêtent. Les stagiaires de 3e.
Ah,
ils sont là, qui sont trop confiants, trop insolents, trop pas bien.
Vous êtes mal tombé. Hein. Moi, je suis tombé sur des petits timides qui n'osaient pas, qui avaient du talent et qui avaient besoin d'être poussés, tout simplement.
Ah, ça, c'est bien. Mais dès qu'ils sont là, je les aide. Hein.
Mais est-ce que vous avez été vous-même stagiaire de 3e ?
Eh bien, non.
Ça n'existait pas.
Ça existait déjà, mais ce n'était pas obligatoire.
Ça n'existait pas.
Oui, je sais.
Vous nous direz, évidemment, dans votre
chronique,
depuis quand ça existe, puisque c'est votre métier, vous êtes payé pour ça.
C'est entre ma date de naissance et la vôtre.
Donc, entre 1920 et 1980. Olivier Pouls, vous êtes avec nous, et chaque jour, vous nous racontez l'histoire d'une recette.
Oui, et nous allons faire des quenelles, chers amis, aujourd'hui, des quenelles lyonnaises, évidemment, à la sauce Nantua.
Évidemment, Stéphane, c'est un plat que vous appréciez.
J'adore la quenelle.
Ça vous rappelle votre enfance ?
Ben oui, bien sûr, les quenelles de brochet.
Nappées de sauce, quand elles gonflent dans le four, on les regarde comme ça par la porte du four.
Vous n'en avez pas préparé ?
Et où est le four ?
Oui, mais c'est surtout, vous avez eu la flemme. Mmh. Avoir la flemme, d'où vient cette expression, Stéphane ? Ça sera le mot de la fin.
Exactement.
Le fin mot de l'histoire de Stéphane Bern. Mais tout de suite, les amis, découvrons notre deuxième grand traqueur du jour. Stéphane Bern enfourche sa bicyclette et nous raconte Yves Montand.
Europe 1, 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il y a eu Vincent, François, Paul et les autres, et parmi eux, il y avait lui, Ivo Livi, connu sous le nom d'Yves Montand. Il aurait eu 100 ans cette année. Derrière son nom, celui qui fut l'un des plus grands acteurs que le cinéma ait compté, après avoir été artiste de musical et chanteur au talent débordant, et à la timidité et au trac souvent pétrifiant aussi. Stéphane Bern nous raconte Yves Montand cet après-midi.
Parler d'Yves Montand, c'est parler d'un géant, et pas uniquement parce qu'il était plutôt grand pour son époque, 1m87 tout de même, et tout en minceur élancée. Si je vous parle d'un géant, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont à ce point-là marqué leur époque, que ce soit sur scène, sur grand écran, ou par la place incroyable qu'a occupé Yves Montand dans la sphère médiatique et même politique. Pendant des décennies des années 40 à la fin des années 80, Yves Montand a presque toujours été en haut de l'affiche, au cinéma ou en musique. Il suffit de penser à des chansons comme « Les feuilles mortes »,« À bicyclette » ou « C'est si bon » pour avoir aussitôt à l'oreille cette voix chaude, pleine de soleil et de vibrato.
C'est si bon,
oh, c'est si bon
de partir n'importe où.
Il suffit de penser au salaire de la peur pour voir son beau visage crispé par l'angoisse et immortalisé par Henri-Georges Clouzot. Il suffit de penser à Jean de Florette et à Manon des Sources pour avoir en tête cet accent chantant du Midi, celui de son enfance qu'il avait retrouvé pour servir Pagnol en incarnant le Papet dans les deux films de Claude Berry. Il suffit de penser à son rôle dans Z de Costa Gavras pour se rappeler la place qu'Yves Montand occupait dans les combats politiques de son temps. Lui qui a été toute sa vie ou presque un compagnon de route du communisme en mémoire de ses parents et un fervent défenseur des droits de l'homme. Et il suffit de penser au couple qu'il a formé pendant 35 longues années avec Simone Signoret pour se souvenir de ce charme à la française, à l'italienne un peu aussi, qu'il a incarné toute sa vie au point de faire un temps chavirer Marilyn Monroe elle-même. Oui, Yves Montand est un monument et, comme tous les monuments, il avait des fissures plus ou moins profondes et plus ou moins apparentes. Pour comprendre pourquoi, il faut sans doute se rappeler d'où vient Yves Montand, ou plutôt Ivo Livi, ce petit gamin italien qui naît en Toscane il y a tout juste 100 ans, en 1921, dans une famille ouvrière et militante convaincue par les idéaux du communisme. Mais l'enfance d'Ivo ne sera pas italienne. Avec l'arrivée de Mussolini au pouvoir, il ne fait pas bon être communiste en Italie, au milieu des années 20. La famille émigre alors en France, à Marseille, où elle s'installe dans les faubourgs et dans les cités de fortune de la vieille cité phocéenne. Ce petit qui deviendra Montand grandit là, dans ce milieu de prolétaires, qu'il n'oubliera jamais. C'est une enfance à la fois pauvre et incertaine, souvent rude. À 11 ans, Ivo fait plus vieux que son âge, alors il prétend qu'il en a 14, pour pouvoir aller travailler à l'usine et gagner quelques sous. Ce qui marque une existence et explique sans doute en partie cette inquiétude sourde qui l'accompagnera toute sa vie. Pour Ivo, l'école est surtout buissonnière. Le gamin de Marseille devient vite un grand escogriffe tout en longueur et tout en os, qui rêve de musicals et de cinéma, qui aspire à imiter ses idoles comme Fred Astaire, chanteur, danseur et acteur hors pair. Alors, il s'essaye à la chansonnette, il pousse les portes des cabarets pour y chanter du Charles Trenet, imiter Fernandel et se former au métier.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina.
En 1938, Ivo est sur la scène de l'Alcazar à Marseille. Comme l'écrit son premier biographe, Patrick Rothman, dans le dernier livre, dans lequel il convoque une nouvelle fois Yves Montand, sur cette scène minuscule, Ivo fait connaissance avec le trac qui l'étreint, et en même temps le stimule, cette étrange alchimie d'une souffrance infinie et d'un bonheur fou. Dès lors, ajoute l'écrivain, l'angoisse est le moteur de sa vie. La guerre éclate, la France est occupée, mais Ivo Livi passe entre les gouttes, alterne entre des boulots d'ouvrier le jour, deux boulots et la scène le soir. Le voilà qui monte à Paris, prend son nom de scène et devient Yves Montand. Et sa carrière est fulgurante, il croise Édith Piaf, vite conquise par l'artiste et par l'homme dont elle tombe amoureuse. C'est avec elle qu'il prend une autre envergure, qu'il apprend à se perfectionner encore et toujours et à travailler encore et encore pour se rassurer. Un jour, Montand confiera à Patrick Rothman, quand une salle vous attend, il faut payer, payer avec son ventre, il faut réussir tout de suite. Vous devez chaque soir empoigner un public différent, il faut littéralement arracher les applaudissements du spectateur. Voilà le vrai métier. Ce vrai métier, il le fait merveilleusement bien et sa carrière explose à des altitudes encore jamais vues. À la fin des années 40, Montand est une star plus célèbre que Maurice Chevalier, Charles Trenet ou Édith Piaf elle-même, qui en prend d'ailleurs ombrage. La fin de la décennie est déterminante pour Yves Montand qui poursuit sa carrière musicale. En 1947, il engage son fidèle pianiste Bob Castella. En 1949, il enregistre Les Feuilles Mortes et rencontre Simone Signoret qui devient sa femme. 2 ans plus tard, à 30 ans, il monte un récital au Théâtre de l'Étoile à Paris. qui deviendra légendaire.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi.
Seul en scène, il tient le public en haleine et le séduit durant une heure et demie avec 22 chansons travaillées au cordeau, à force de sueur, d'acharnement et de perfectionnisme. C'est pour lui la seule façon de calmer cette trouille qui le dévore dans sa loge lorsqu'il est seul face à son reflet et qu'il sait qu'il faut y aller. Entre 1945 et 1955, Yves Montand donne plus de 1600 spectacles et bat tous les records de vente de disques. Puis il se lance sur la scène internationale avec une tournée mémorable dans les pays du bloc de l'Est avant de partir pour le pays qu'il avait tant fait rêver gamin, les États-Unis d'Amérique. Il triomphe à Broadway, se lance pour de bon dans le cinéma, quitte à délaisser de plus en plus souvent cette scène qu'il aime mais qu'il effraie tant pour lui préférer la pellicule. Yves Montand tourne sous la direction des plus grands, Sauté, Houry, De Broca, Costa-Gavras, Godard, Melville et j'en passe. Il passe de la comédie au polar, du drame à la comédie. Il crève l'écran dans César et Rosalie, Le Cercle Rouge, Vincent François, Paul et les autres, ou encore La Folie des Grandeurs.
C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller.
À chaque fois qu'il remonte sur scène, même s'il se fait rare, c'est toujours le même monstre de travail mangé par l'appréhension et par le trac, obsédé du détail, capable de piquer des colères mémorables avec son équipe pour masquer la peur de ne pas être à la hauteur, de faire le spectacle de trop et de tomber du piédestal qu'il s'est construit au fil du temps. Et c'est encore en travaillant qu'il meurt d'une crise cardiaque en novembre 1991, 6 ans après sa femme Simone Signoret et quelques jours seulement après avoir achevé le tournage de IP5 de Jean-Jacques Benex. À 70 ans, le vieux boxeur avait encore des choses à dire et à chanter. Il se préparait pour un spectacle à Bercy. Autant dire, à affronter une nouvelle fois les yeux dans les yeux cette sainte trouille qui lui aura tant pris, mais tant apporté.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Yves Montand, nous sommes avec celui qui le raconte mieux que personne, dont vous avez déjà parlé dans ce récit, Stéphane, son premier biographe, Patrick Rothman. Bonjour Patrick Rothman.
Bonjour.
Patrick Rothman, vous êtes évidemment grand amoureux d'Yves Montand et de son œuvre. Vous lui avez consacré une biographie, un documentaire, et là, à l'occasion des 30 ans de sa mort, vous signez Ivo et Georges chez Grasset. Ivo, c'est lui, ça on l'a compris, et Georges, c'est Georges Semprin. Il y a plein de Montand, il y a le chanteur, l'acteur, l'amoureux. Vous, c'est plutôt à l'homme engagé, le fils d'immigrés italiens, Ivo Livi, auquel vous vous intéressez dans ce nouveau livre. Comment on peut décrire ce Montand-là ?
Alors, dans ce livre, Ivo et Georges, je raconte les destins croisés de Yves Montand et de Georges Semprin, deux acteurs de leur siècle, d'une certaine manière, dont la vie est totalement mêlée à l'histoire du XXe siècle. Et évidemment, le fil rouge de cette histoire, c'est leur rapport à l'histoire et leur rapport à l'engagement. Et je crois que dans le cas de Montand, on ne comprend rien à ce qu'il a été si on ne va pas voir d'où il vient. Montand répétait toujours, je l'ai entendu 100 fois, venant d'où je viens. Ses origines, cette famille italienne, l'exil, la pauvreté, la misère même à Marseille, tout ça a déterminé chez lui une vie entière, donc il a eu d'ailleurs beaucoup de mal à se sortir de cet engagement communiste, quoi qu'il n'ait jamais été membre du parti. Oui. Mais il était dans ce cercle et il a partagé ses illusions et ses combats. C'est pour ça que dans ce livre, j'ai essayé de raconter par des séquences alternées entre la vie de l'un et de l'autre. Il faut souligner que Montand et Semprin ont été liés par une amitié incroyable, une amitié très profonde, très très belle. Et pour une part de cette amitié, c'est leur rapport commun qu'ils ont eu avec cet engagement pendant toutes ces années.
Ce qu'on comprend, il a été engagé. Enfin, comment dire, il était compagnon de route du Parti communiste. Et pourquoi pendant la guerre il ne s'est pas engagé, il n'est pas entré dans la résistance? C'est une question qu'on s'est toujours posée.
Oui. Alors, à Moscou, on est dans une chambre d'hôtel, il fait une sorte de confession et il me dit, tu vois, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, mais je suis passé à côté de l'essentiel. Et l'essentiel pour lui, c'est effectivement, c'est le combat, l'engagement, c'est-à-dire ce qui le séduisait tellement chez Georges Champrin, qui lui, à 18 ans, entre dans la résistance, dans le maquis, arrêté, torturé, déporté, qui a une vie romanesque complète. Bon, lui, il passe à côté. Pourquoi ? Parce que je reviens toujours à ce thème de d'où il sort, et que pour en sortir, c'était le chemin de la chansonnette à l'époque, des imitations traînées. Donc, il a un succès phénoménal, assez rapide, même à Marseille, comme vedette. Et il ne pense qu'à ça. Il est obsédé par ça, que pour rester dans le coup, chanter, monter. Et il ne voit pas ce qui se passe à côté. Il le reconnaît lui-même. Écoutez, il y a 39 millions de Français qui n'ont pas vu ce qui se passait à côté. Oui. Bon.
Mais c'était l'un de ses regrets.
Ça a été le regret de sa vie d'être passé à côté de ça. Et de pas avoir vu la persécution des Juifs. Et ça marqué sa vie de manière très importante.
Et ce qui a marqué sa vie, c'est le thème de notre émission, c'est aussi le trac dont vous parlez, dont Stéphane a parlé dans le récit. Ce trac est un peu ambivalent à vous lire. C'est-à-dire que c'est à la fois un ennemi et un moteur pour monter sur scène et se dépasser.
Absolument, vous avez raison. Ce trac est une souffrance. Il ne supporte pas de monter sur scène. Il n'est pas le seul. Brel vomissait à chaque fois qu'il montait sur scène. Donc Montaigne était torturé, littéralement. Faut pas oublier que c'était un type qui était extraordinairement timide, inhibé. Donc, il faisait le métier le plus exhibitionniste. C'était très bizarre. Donc, il était malade physiquement de monter sur scène. Et en même temps, il a découvert que ça lui permettait de surmonter ses inhibitions. C'est un combat avec lui-même qu'il menait. Et Montaigne, c'était un peu ça. C'est toujours se donner des défis, des combats contre lui-même. Et il s'en est rendu compte ce fameux soir à l'Alcazar, le 21 juin 1939. Il a 17 ans. Il chante sur la scène de l'Alcazar avec le public le plus terrible qu'on puisse imaginer, parce que c'est pas simplement les vociférations, c'est les tomates, etc.
Les fourchettes.
Et il chante pour la première fois dans les plaines du Far West. Et là, il y a une espèce de miracle. La salle se tait, l'écoute, lui fait un triomphe. Il sort de là, il dit, c'est moi qui ai fait ça, j'ai réussi à surmonter non seulement le public, mais moi, ma trouille, j'ai réussi à le faire. Et donc là, on est au cœur de cette très étrange alchimie entre la joie-souffrance, comme il l'appelait.
Est-ce qu'il avait des moyens, je sais pas, des rituels, des gris-gris pour lutter contre le trac?
Oui, alors il y avait plusieurs rituels. Quand il était en tournée, par exemple, qu'il est arrivé dans une ville, il posait même pas ses valises et il allait voir la salle qu'il arpentait de long en large pour voir, voilà. Il allait, avant le spectacle, il allait toujours voir à travers le rideau qui était là. Je sais pas si ça calmait son trac.
Ça, c'est encore pire, ça.
Plutôt l'accentuer. Et puis, il faisait aussi une chose, c'est que une heure avant le spectacle, il défilait tout le spectacle avec ses musiciens à toute vitesse, mais pas en chantant.
Et Simone Signoret le rassurait? Elle était toujours à la même place, non?
Comme elle l'a dit elle-même, c'était une groupie absolue. Elle était là, assise de ce fameux dixième rang.
Toujours au dixième rang.
Oui, toujours. C'est l'endroit où on le voit le mieux, il paraît. Voilà. Mais Montaigne était le maître de lui-même sur scène.
Mais ça s'est jamais atténué, le trac s'est jamais atténué avec le temps et l'expérience, parce qu'il est quand même, quand je parle de 1600 spectacles, quand même...
Alors, il a réussi à le domestiquer, à le dominer. Mais la souffrance était toujours là. Enfin, cette peur, cette angoisse. Il disait chaque soir, il faut aller conquérir ce public. Le type qui est assis au dernier rang, il faut que j'arrive à le convaincre. Oui. Et moi, j'ai une anecdote personnelle. Un jour, par un miracle de chance absolue, je suis avec lui dans sa maison d'Auteuil. Et puis un matin, il me dit tiens, installe-toi là, et il me fait son fameux récital de Bercy que personne n'a jamais entendu, mais moi j'ai eu la chance de l'avoir pour moi tout seul, et je suis tout seul dans le salon. Il est tendu, il est anxieux, non pas à cause de moi, mais parce qu'il chante il se projette devant un public qui va être là, etc. Et donc ça a été, quand j'écris dans ce livre Ivo et Georges, c'est l'angoisse a été le moteur de sa vie. C'est vrai, c'est Montaigne est quelqu'un qui, même dans la vie courante, n'a jamais été serein, n'est jamais tranquille, qui était toujours avec cette petite lueur d'inquiétude dans les yeux, de l'autodidacte qui avait quitté l'école à 11 ans pour travailler en usine, et qui avait appris la grammaire tout seul à 25 ans en achetant un livre, etc. Il y avait cette espèce d'effort permanent pour être à la hauteur de ce qu'il rêvait d'être. Il fallait toujours que Montaigne et Pat le petit Ivo.
En tout cas, merci beaucoup Patrick Rothman. Je rappelle le titre de votre livre qui est tout à la fois passionnant et très émouvant, parce qu'évidemment, c'est émaillé de souvenirs et de choses que vous avez vécues. Ivo et Georges, qui vient de paraître chez Grasset.
Il faudra que je revienne pour parler de Georges.
Ben oui, c'est ça.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces stars de l'histoire qui avaient le trac. Après Chopin et Yves Montand, Mathieu, vous nous brossez le portrait à 99% vrai d'une artiste plus proche de nous, très proche de notre cœur aussi, et qui nous écoute, et qui avait tellement le trac sur scène qu'elle a tout simplement arrêté de monter sur scène.
Oui, bah en même temps, Françoise Hardy, puisque c'est d'elle dont je vais vous parler, n'est pas du genre à tourner autour du pot. Quand elle a compris que son trac ne passerait pas, elle a décidé tout bonnement d'arrêter de se produire sur scène. C'était il y a 50 ans. On n'est vraiment pas égaux hein, devant le trac. On connaît tous, vous la rappelez tout à l'heure, la phrase de la grande actrice Sarah Bernard à une élève qui lui disait ne pas connaître le trac. Ne vous en faites pas, mademoiselle, ça viendra avec le talent. La pique est cinglante, on l'aime bien, mais elle n'est pas tout à fait exacte. Des contre-exemples existent, certains contre-exemples sont même à un mètre de moi et affichent un grand sourire satisfait. Oui, en matière voilà, de trac, Stéphane est l'antithèse absolue de Françoise Hardy, comme il nous le confiait récemment en antenne.
T'as toujours le trac, toi, Stéphane ?
Ah non.
Ou même pour des primes ?
Non, je m'en fous trop, je crois.
Aux antipodes de Stéphane, qui donc s'en fout trop, il y a donc Françoise Hardy, cas d'école de l'artiste incapable de surmonter son trac. Disons-le d'emblée, Françoise ne traquait pas qu'à moitié. On n'était pas dans du tracounet genre « Ah oui, je vais me faire désirer un petit peu avant de monter sur scène, dites-moi combien vous m'aimez public ». Non, son trac à elle, c'est le vrai trac, hein, celui qui rend malade, qui file des sueurs froides et des palpitations. Son angoisse principale, les trous de mémoire. Il faut dire que dans la chanson, les trous de mémoire, c'est rédhibitoire, d'où la carrière avortée de Jean-Michel à moitié.
Il ne chante que 50% de ses chansons préférées, c'est Jean-Michel à moitié.
C'est un beau roman. C'est une romance.
Bon, je vous rassure, Françoise, c'était moins grave. Hein. Mais lui, il est arrivé quand même d'avoir quelques trous de mémoire à Françoise, notamment à la télé, dans les émissions de Roger Lanzac, que je décrirai sommairement pour aller droit au but, comme le Stéphane Bern aux yeux pochés des années 60. On associe souvent trac et timidité. En fait, c'est plus compliqué que ça. Françoise Hardy n'est pas particulièrement timide dans la vie. C'est plutôt quelqu'un qui dit ce qu'elle pense, parfois sans prendre des pincettes. Un exemple, elle raconte qu'au début de sa carrière, quand elle se demandait quel label elle allait démarcher pour promouvoir son premier disque, elle s'est tournée vers Vogue. Après avoir entendu un titre de Johnny Hallyday sorti chez eux, elle raconte, sans complexe, qu'elle a trouvé le titre tellement mauvais qu'elle s'est dit en gros, bah, s'ils prennent ça, ils peuvent bien me prendre aussi. Allez hop, tout le monde est rhabillé en une phrase, Johnny, elle et Vogue. En fait, elle fait partie plutôt des gens qu'on peut qualifier de sans filtre, qui ne s'embarrassent pas des convenances. Françoise Hardy. Stéphane est de ceux-là, hein, comme nos invités en font parfois la mère expérience, quand leur interview terminée, ils émettent la possibilité de rester un peu avec nous.
Merci Laetitia Leguet. Je rappelle le titre de votre biographie, Serge Prokofiev, qui est paru aux éditions Actes Sud.
Tu vas ?
Oui.
Oui, c'est mieux. C'est mieux que tu dégages. Françoise Hardy aussi est cash comme vous, Stéphane. Même dans sa manière de gérer le trac qui l'a paralysé, là où d'autres vedettes dont la carrière décollée auraient choisi, je sais pas, la sophrologie ou la méditation, Françoise, elle, a tout bêtement décidé d'arrêter la scène. Plus de télé non plus, sauf en playback. On imagine mal une artiste annoncer ça à son label aujourd'hui, mais en 68, Françoise Hardy le fait et ça passe. Et depuis 50 ans, à quelques exceptions près, elle s'y tient. La question est donc la suivante. De quel type de trac souffrait Françoise Hardy au point de renoncer à la scène et à ce contact avec le public qui fait pourtant tout le sel de la vie d'artiste et dont Stéphane personnellement ne pourrait se passer ?
Bonjour, Joinville-le-Pont, bonjour à tous.
Après littéralement des heures d'enquête, je vous l'avoue, à la Bibliothèque de médecine de Paris, section phobie, je dirais que notre Françoise souffre soit d'athélophobie, soit de catagélophobie.
Bien sûr.
Comme vous dites, bien sûr, Stéphane, je vous laisse nous expliquer ce que c'est.
Je ne sais pas.
Oui, alors, c'est
bien
soit...
sûr que vous avez pris une autre émission.
Il s'agit soit de la peur de l'imperfection, de ne jamais être à la hauteur, soit la peur du ridicule. Alors après, on peut nuancer, c'est peut-être aussi plus une peur de l'échec, la tikiphobie. Je vois que vous penchez plutôt vers ça. Ou alors, on fait fausse route et c'était de la glossophobie, la peur de parler en public, quoique non, parce qu'elle, c'est la peur de chanter. Ou alors, on n'a rien vu venir et c'était de la scopophobie, la peur d'attirer l'attention sur soi. À noter que le trac de Françoise Hardy n'est lié qu'au fait de chanter sur scène. En studio, elle est pépouse, Françoise. Peut-être le fait de savoir qu'elle peut refaire autant de fois qu'elle veut. Alors, d'où lui vient ce stress de la scène ? Peut-être de son enfance. Une drôle de vie familiale, un trio composé d'elle, sa mère et sa petite sœur. Pas de père, si, mais pas vraiment en fait. Le père a une autre famille, ce sont des choses qui arrivent. Il y a la famille officielle et la clandestine. Celle de Françoise, c'est la clandestine. Est-ce que c'est ça qui la rend si discrète? En tout cas, elle est timide, sentimentale, enfermée dans un monde de livres et de chansons, écouter la radio. Sa nature effacée n'empêche pas une détermination à toute épreuve. En récompense pour son bac, elle demande une guitare et en intégrant la Sorbonne, elle commence à écrire des petites chansons. En 61, elle signe un contrat donc avec Vogue. L'année suivante, 62, est une grande année pour Françoise Hardy. Vous imaginez volontiers pourquoi, Stéphane?
À mon avis, elle a vu le loup.
Mais Stéphane, non.
C'est la chanson qu'elle déteste le plus,
elle
et tous les garçons.
Elle sort son premier 45 tours. Elle la déteste, elle ne veut plus l'entendre.
Elle ne supporte pas.
45 tours qui est déjà sorti depuis quelques mois, quand le soir du 28 octobre 62, le grand public la découvre vraiment à la faveur du référendum sur l'élection au suffrage universel du président de la République. Les téléspectateurs attendent le résultat devant leur télé. Or, dans l'un des intermèdes musicaux, Françoise Hardy apparaît pour chanter sa future chanson préférée, Tous les garçons et les filles. À la fin de l'année, 500 000 exemplaires du 45 tours seront vendus. Françoise Hardy devient instantanément une étoile de la chanson française et ça n'a rien d'étonnant car les étoiles la fascinent au point qu'elle va s'initier à l'astrologie. Au cours des années 80, elle anime même sur Radio Monte Carlo une série d'émissions consacrées à cette belle discipline. Curieusement, là, aucun trac, preuve que la phobie de Françoise ne concernait que le chant en public. On trouve quand même étrange qu'elle ait préféré abandonner définitivement la scène plutôt que d'essayer de vaincre son trac. Parmi les artistes célèbres, si on creuse un peu, elle est loin d'être un cas isolé. Goldman, par exemple, lui avait carrément des nausées à ses débuts. Son truc, c'était de se repasser les textes de ses chansons avant le concert pour être sûr. Aujourd'hui, les chanteurs ont trouvé une parade. Ils ont le karaoké qui défile devant eux sur un écran caché. D'autres grands noms de la musique avant elle ont eu un problème de trac. Ella Fitzgerald, Brel, on l'a dit, qui vomissait avant de monter sur scène, et même Paul McCartney. Il paraît qu'Adèle se tape aussi de belles crises d'angoisse avant certains concerts, qu'elle est suivie par un hypnothérapeute. Elle était totalement terrorisée à l'idée de chanter Skyfall aux Oscars en 2013. Il lui a fallu plusieurs séances d'hypnothérapie pour vaincre sa peur. C'était presque gagné jusqu'à ce qu'elle apprenne que Barbara Streisand était dans la salle. Or, c'est son idole absolue, elle était tétanisée. Quand on sait que Streisand elle-même a arrêté les concerts à partir des années 70 après avoir trop souffert du trac, on comprend que le trac est en fait le dénominateur commun de tous les chanteurs. Ensuite, chacun a sa petite combine pour le surmonter. Jay-Z, par exemple, déclare qu'un bon moyen, c'est d'imaginer le public à poil. Je ne sais pas si vous faites ça, Stéphane, quand vous présentez les victoires de la musique hors Covid, de nous imaginer à poil. En tout cas, c'est peut-être ce que vous faites avec nous. Quand vous regardez David, Olivier et moi avant l'émission, vous nous imaginez nus.
Les cordiformes, les chairs, le gras, non. Les bourrelets.
Non, je vous en prie, Stéphane, Olivier n'est pas gras, il est juste un peu enveloppé. Enfin, chacun ses techniques pour déstresser avant une émission ou un concert.
Merci beaucoup, Mathieu. C'était 99% vrai. Il y a donc 1% de faux.
Vous avez détecté, puisque vous connaissez visiblement bien Françoise Hardy.
J'adore Françoise Hardy.
Vous la fréquentez, j'ai l'impression.
Écoutez, moi maintenant, parce qu'elle s'est un peu isolée, un peu, mais voilà, elle dit qu'elle souffre beaucoup. Mais c'est une femme incroyable, incroyable. Puis quel artiste.
Et quel artiste qui a réussi ce tour de force d'avoir une carrière et 28
elle
albums.
Est exigeante avec elle-même, donc avec les autres, et c'est assez légitime finalement.
Et vous êtes d'accord sur le fait qu'elle n'est pas timide en fait?
Elle n'est pas timide, non, elle dit ce qu'elle pense et elle pense ce qu'elle dit.
Et c'est ça qui est étonnant pour quelqu'un qui a le trac à ce moment-là.
C'est ça qui est rafraîchissant, mais chanter en public c'est autre chose, ouais. c'est assez, quelque chose d'assez violent quand même.
Vous en avez fait l'expérience,
Se souvient. Je ne sais pas chanter.
On a les archives, oui, c'est bien pour ça que ça doit être assez stressant.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour. Pour nous recentrer, Mathieu, sur le quotidien, mais un quotidien qui est inspiré par l'histoire. D'où vient ce mot? D'où vient cet objet? D'où vient ce plat?
Et surtout cet individu. D'où vient Olivier Pouls? De Belgique, certes, mais comment est-il arrivé chez nous? Beaucoup de questions restent en suspens.
En voiture.
Olivier Pouls, notre spécialiste de l'histoire gastronomique, aujourd'hui un plat cher à Stéphane Bern.
Oui, les quenelles sauce Nantua, l'un des emblèmes de la gastronomie lyonnaise.
Un plat incompréhensible pour moi, mais pourquoi pas, vous tenterez de me le faire apprécier. Le mot de la fin reviendra à notre Lyonnais de l'étape, Stéphane Bern.
D'où vient l'expression « avoir la flemme ». Oh, j'ai la flemme, une sorte de paresse qui vous envahit. D'où ça vient, cette flemme?
Aucune idée.
C'est pas la flamme.
Vous êtes là pour ça. Tout de suite, David Castello-Lopez, lui, nous entraîne aux origines d'une invention, aujourd'hui une belle invention, qui ne sert pas à grand-chose, sauf pour eux peut-être les stagiaires de 3e.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire continue avec David Castello-Lopez qui chaque jour pour nous remonte aux origines d'une invention. Parfois c'est une invention utile, parfois c'est une invention inutile, souvent d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous laisse trancher, nous parlons du stagiaire de troisième.
Oui, j'ai été confronté à pas mal de stagiaires de troisième dans ma vie professionnelle, et ça m'a permis d'établir une statistique très fiable avec ma tête. 80% des stagiaires de troisième, c'est des gros branleurs. Voilà, ils savent absolument rien faire. Ils mentent dans leur rapport de stage et ils sont parfois d'une insolence insupportable. Un jour, il y a un stagiaire de troisième qui est venu s'asseoir devant moi quand je travaillais au journal Le Monde. J'avais quand même un certain statut hiérarchique, hein, parce que j'étais chef de service.
C'est là où vous avez votre bureau séparé?
Non, ça c'était à Capa.
Ah pardon.
Et donc j'étais au Monde, j'étais chef de service. Il s'est assis devant moi avec une fiche qu'il avait à remplir et il a dit intitulé de ton poste. Et j'ai fait, non mais c'est quoi, je suis pas hyper à cheval sur les marques de politesse, mais là c'était quand même un petit peu abusé. Et bien sûr, tout ça, ça donne envie de briser la carrière des stagiaires de troisième avant qu'ils en aient une, vous voyez. Mais souvent, c'est impossible parce que dans beaucoup de cas, les stagiaires de troisième sont les enfants de gens plus importants que vous qui travaillent dans la même entreprise et dont vos promotions futures dépendent en partie. Et donc, vous fermez votre gueule et vous dites, mon intitulé de mon poste, bon ben voilà, je suis chef de service, machin. Et vous ne punissez pas cette insolence insupportable. Mais alors, depuis quand est-ce que ça existe, les stagiaires de troisième? Eh bien, grâce à un article du Parisien qui a enquêté sur la question, j'ai déterminé que pour le savoir, il fallait aller à Sucy-en-Brie. Sucy-en-Brie, c'est une banlieue de Paris. J'y ai passé un moment, c'est charmant. Et c'est tellement charmant que ça m'a donné envie de composer une petite chanson que je vous propose d'écouter.
Sucy-en-Brie, c'est la vie sans souci. Sucy-en-Brie pour la vie.
Sucy-en-Brie, la vie sans souci.
C'est une pub que vous avez faite pour le
exactement,
comité
j'aurais parfaitement départemental. Et je pense que Sucy-en-Brie n'a jamais été loué à ce point-là.
Jamais.
À Sucy-en-Brie, je suis allé dans un collège qui s'appelle le Collège du Parc et j'ai passé 3 heures dans une classe de troisième assez typique où j'ai retrouvé cette hiérarchie du cool hyper visible que j'avais pas oublié depuis ma propre troisième. Vous avez les garçons populaires qui se remarquent à 3 kilomètres, les filles populaires qui sont très caractéristiques dans leurs attitudes, les pas populaires qui ont l'air un peu tristes et bons élèves, les petits malins qui font des petites blagues. Évidemment, le truc, c'est qu'évidemment, c'était pas eux que j'étais venu voir, c'était la professeure de technologie qui leur faisait cours et qui s'appelle Isabelle Boulet.
Bonjour, je m'appelle Isabelle Boulet et c'est moi qui ai inventé les stages en troisième.
Eh oui,
c'est Isabelle Boulet qui a inventé les stages en troisième.
Ce n'est pas la chanteuse,
ce n'est pas la chanteuse
qui n'a pas un travail à côté comme professeur de technologie à Sucy-en-Brie. Isabelle Boulet, elle est née dans les
besoin, c'est ça que vous voulez dire, peut-être. Stéphane, vous êtes ignoble.
Isabelle Boulet, elle est née dans les années 60 à Paris. Elle a pas voulu me dire exactement sa date de naissance, mais c'est pas très grave.
Coquetterie de star.
Voilà, elle a d'abord travaillé dans une banque, mais ça lui a pas super plu, et donc elle est devenue prof de techno. Et là, très très vite, elle s'est fait la réflexion que la classe de troisième, c'est une année cruciale, dans le sens où c'est là qu'on décide si on va en filière générale ou pas au lycée. Or, les élèves de troisième, ils ont aucune connaissance du monde du travail, et donc c'est très difficile pour eux de choisir. Et Isabelle, elle s'est dit tout simplement, ce serait quand même bien s'ils pouvaient faire un stage, comme ça ils verraient ce que c'est que le monde de l'entreprise, et ils pourraient peut-être faire leur choix de façon plus informée. Et en décembre 1988... la première promotion de stagiaire de troisième est lâchée dans les entreprises de Sucy-en-Brie pendant 3 jours. Dans l'ensemble, ça s'est pas si mal passé, mais il y a quand même eu quelques expériences malheureuses, notamment avec un élève, comme le raconte Isabelle Boulet.
C'est un élève qui était au demeurant très gentil, mais il avait un nom à consonance portugaise. Il téléphone et l'entreprise lui répond « Moi, je veux pas de portugais, c'est tous des voleurs. » Il est rentré en pleurs. J'ai dû appeler l'entreprise en disant, mais ça va pas la tête.
Vous voyez, il y a plein de racisme dont on parle. On parle un petit peu moins du racisme anti-portugais.
Ah bah parlons-en, là.
Mais il existe et il me touche un petit peu particulièrement, je dois dire. Aujourd'hui, la première génération de stagiaires de troisième du Collège du Parc, ils ont 47 ans et je les ai tous appelés un par un pour savoir si eux aussi c'était
évidemment
branleurs.
Olivier Pouls émet un doute quand
il est tout fait.
Montrez voir vos relevés téléphoniques là, je veux voir les 47 numéros.
D'accord,
et la durée des appels.
Mais c'est pas parce que il y a des gens qui travaillent pour leur chronique. Et je les ai tous appelés un par un et pour savoir si eux aussi c'était des branleurs, et en fait non, la plupart m'ont dit que non, ils étaient super investis, mais bon, après c'est ce qu'ils disent. Après ils ont souvent eu des bonnes carrières, mais peut-être qu'ils mentent aussi. Il reste qu'aujourd'hui le stage de troisième, il est obligatoire, et chaque année il y a quand même 800 000 stagiaires qui sont lâchés dans les entreprises françaises. Donc dans l'ensemble, quand même bravo à madame Boulet.
Mais ça a mis du temps à s'étendre à l'échelle nationale, parce que moi je n'ai pas fait de stage de troisième.
Oui, alors moi je sais qu'à mon époque déjà, moi j'étais en troisième en 19, au milieu des années 90, disons. Il n'y avait pas encore de stage de troisième obligatoire, mais il y a pas mal de gens de ma génération et donc de la vôtre aussi, Mathieu,
qui en ont fait.
Et aujourd'hui, c'est obligatoire.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast, évidemment, et sur toutes les applis audio et le site europe1.fr. Olivier Pouls, il est une recette qui, personnellement, ne me manque pas. Elle me rappelle la cantine. Oh. Et oui,
vous aviez des quenelles à la cantine.
On avait des quenelles dégueulasses. C'est probablement pour ça que je n'aime pas les quenelles. Ça se trouve, vos quenelles sont délicieuses.
Elles sont soufflées comme ça.
Des quenelles très aériennes. Oui, ça doit être très aérien. Et c'est vrai qu'on trouve même des quenelles en boîte. Et j'ai vu l'autre jour, je dois vous confesser que j'en ai jamais goûté. Et ça, Dieu m'en garde. Mais des vraies bonnes quenelles, c'est par exemple, je raconte un peu ma vie, mais il m'arrive de temps en temps d'aller à Lyon. Et avant de prendre le train, je vais toujours faire un petit tour par les Halles Paul Bocuse, hein, au centre. Et là, il y a une marque qui s'appelle Giraudet, maison fondée en 1910, s'il vous plaît. Je vais toujours sélectionner un petit choix de quenelle parce qu'ils en ont à différents goûts. Ils ont même les sauces qui vont avec et pour entrer chez vous, il n'y a plus qu'à les préparer. C'est magnifique.
J'ai l'impression que la quenelle est plus complexe que ce que j'imaginais, Olivier. Racontez-nous
son
histoire.
Surtout la quenelle lyonnaise, on va se focaliser un petit peu sur elle, même si la quenelle probablement ne vient pas de la ville de Lyon, puisque dans la nuit des temps se perd probablement la recette de cette spécialité. Au 1er siècle après Jésus-Christ, Apicius, le grand cuisinier romain, faisait déjà mention d'une préparation de chair de poisson broyée et additionnée d'œufs moulés et pochés. On est donc vraiment dans l'idée de ce qu'est la quenelle. En Allemagne, on la retrouve au Moyen-Âge sous le nom de Knödel, ce qui aurait d'ailleurs donné le nom de quenelle. Et si vous allez en Alsace aujourd'hui, on en trouve aussi dans une version qui s'appelle les Mehlklepfle, qui sont des quenelles alsaciennes. Mais à Lyon, la quenelle aurait été inventée en 1830, selon Félix Benoît, qui est historien de la cuisine lyonnaise, par un pâtissier. Et pendant très longtemps, la quenelle a été l'apanage des pâtissiers, parce que l'appareil qui servait à élaborer la quenelle, c'était une pâte à choux. Pâte à choux aérienne, dans laquelle on rajoutait de la chair de poisson, et essentiellement des poissons. C'était du brochet, donc des poissons d'eau douce, parce qu'il y en avait énormément.
C'est dégueulasse, le brochet, non ?
Ben, je dois vous avouer que c'est pas très excitant à manger comme ça, tout simple, parce que c'est un poisson qui a pas beaucoup de goût, mais c'est une bonne manière, finalement, d'utiliser cette chair de poisson qui est pas très caractéristique, qui est pas très marquée en termes de goût.
Mais si on a les moyens, on peut le faire avec du bardeligne, par exemple.
Oui, mais alors, c'est un peu gâcher le bardeligne, si je puis dire. La quenelle, c'est une manière de valoriser des poissons à la chair pas très intéressante, parce que ce qui est bien dans la quenelle, c'est la sauce qui va avec. Et la grande recette traditionnelle lyonnaise, c'est la quenelle le brochet avec la sauce Nantua. Et cette quenelle, d'ailleurs, les mères lyonnaises, les fameuses mères lyonnaises Brigousse ou Brasier, en ont fait des plats de haute gastronomie. Je rappelle que la mère Brasier, au début du XXe siècle, avait quand même deux restaurants à 3 étoiles Michelin, dans lequel elle servait ses quenelles. Chez Paul Bocuse, pendant très longtemps, et je pense que même encore aujourd'hui, enfin quand ça ouvrira, il y a encore des quenelles à la carte. Donc il existe des versions très gastronomiques et puis des versions plus bistrotières. Alors pour faire ces fameuses quenelles sauce Nantua, vous achetez les quenelles. Faire toute la farce à quenelles, c'est assez compliqué, mais vous en trouvez de très bonnes aujourd'hui chez des traiteurs en règle générale. Ou sinon, vous allez au Hall Paul Bocuse, vous allez vous fournir en quenelle. Pour ce qui est de la sauce Nantua, c'est pas très difficile. Alors la sauce Nantua, c'est où ? Quelle est la base ? Quel est le produit de base de cette sauce ? Non, c'est l'écrevisse. L'écrevisse qu'on trouve abondamment dans les lacs, et notamment dans le lac de Nantua, qui est un lac qui est situé dans l'Ain et qui a donné son nom à cette sauce. Alors il faut une bisque d'écrevisse, vous allez réaliser ce qu'on appelle une béchamel, donc un roux, 40 g de beurre, 40 g de farine, on mélange bien ça, on rajoute du lait, on fait la béchamel. Dans la béchamel, on rajoute la bisque d'écrevisse. Si vous n'avez pas de bisque d'écrevisse, on peut faire avec une bisque de homard ou de langoustine, ça marche aussi. Vous rajoutez un petit trait de cognac, un petit peu de crème liquide, et vous avez la sauce Nantua, sel, poivre. Vous prenez vos quenelles, vous les nappez de la sauce Nantua, un plat dans le four, et vous laissez à 180 degrés pendant 20-25 minutes, et vous allez voir vos quenelles qui vont gonfler petit à petit. Elles vont se nourrir,
finalement.
Mais bien sûr, elles vont se nourrir de la sauce, elles vont en absorber une quantité, puis avec la cuisson, elles vont gonfler.
Combien de temps vous laissez dans le four ?
25 minutes environ.
Combien,
à 180 degrés. Et franchement, il n'y a rien à faire. C'est hyper facile. Après, il n'y a plus qu'à déguster la sauce Nantua et les quenelles ensemble.
Ça donne faim. Et vous m'avez réconcilié avec la quenelle, parce que dans votre sauce Nantua, il y a du cognac.
Il y a du cognac, il y a une petite goutte de cognac.
Je suis toujours content.
Oui.
Ouais. Vous aimez la cuisine au cognac,
Jean-Paul? Oui, voilà. Non, voilà. Il aime le liquid meal. Il aime les repas liquides.
N'importe quoi. Olivier, merci. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr. Tout de suite, c'est l'heure du mot de la fin, celui de Stéphane Bern, l'histoire d'une expression. Aujourd'hui, Stéphane, je vois Olivier Pouls qui lève le doigt.
Est-ce que je peux la dédier à mon fils?
Oui, bien sûr.
Parce que, il a quel âge?
Oh, bah, il a 20 ans, mais le flemme, il sait ce que c'est, lui. Il connaît peut-être pas l'étymologie ou l'origine de l'expression, mais flemme, il sait ce que c'est. Oui.
Grâce à Stéphane Bern, il a maintenant connaître l'étymologie.
Vous connaissez la flemme cuche et lui connaît la flemme.
Ah ouais, on termine donc sur ce, c'est sur ce niveau qu'on termine l'émission. Très bien.
Vous savez, lundi, c'est genre le début de la semaine. Les gens vous disent, ça va comment? Ben, ça va comme un lundi. Les gens ont la flemme.
Et là, c'est sûr qu'avec une bonne blague sur la flemme, la flemme cuche, on repart. On est prêt pour mardi.
D'où vient cette expression?
Alors, avoir la flemme, c'est le matin quand on n'arrive pas à se lever, mais effectivement, ça peut avoir lieu à tout moment de la journée, finalement, devant une tâche qu'on n'a pas envie d'accomplir.
Exactement. Mais voyez-vous, Mathieu, avoir la flemme est une expression récente. Elle date du milieu du XXe siècle, alors que flemmard, avec un seul M, apparaît dès 1874. Une formule est utilisée alors, on parlait d'un batteur de flemme, pour parler d'une personne fainéante. La flemme vient de flemma, qui signifie dans l'Italie du XVIe siècle la lenteur, la placidité. Voilà. En fait, tout commence vraiment au XIIIe siècle. Médicalement, on croyait en la théorie des humeurs. Pour les savants de l'époque, notre corps était composé de sang qui nous donnait de la jovialité, de bile noire qui nous rendait anxieux, de bile jaune qui nous poussait à être belliqueux et de la nymphe rattachée au cerveau qu'on appelait aussi phlegme et qui pouvait nous rendre apathiques. On était donc tributaire de toutes ces humeurs et trop de lymphe nous rendait lymphatiques comme trop de flemme pouvait nous rendre au mieux phlegmatiques, au pire, franchement, tire au flanc. La saignée, qui était censée chasser les mauvaises humeurs avec les résultats catastrophiques que l'on connaît, était donc directement basée sur cette théorie. Allez, terminons sur un sourire et un bon mot de l'écrivain Robert Sabatier. Que la paresse soit un des 7 péchés capitaux nous fait sérieusement douter des 6 autres. Comme il a raison.
Alors voilà votre fils édifié, Olivier. Ouais. Flemma, en italien au XVIe siècle. Et le flegme. Alors le flegme britannique, c'est forme de flemme aussi. C'est à la frontière
cette
des deux.
La placidité, on en revient toujours à la placidité. Manque,
c'est la flemme élégante.
Voilà, oui. C'est pas si mal.
Alors qu'en fait, ça vient de Nono. Oui, on pensait que la lymphe nous rendait.
Quand même, on a mis du temps à se rendre compte que ça marchait pas, ce truc des humeurs. Hein. C'est fou. Oui. Hein. Et c'est avec des trémolos dans la voix, les amis, non pas signe de trac, mais simplement de tristesse, que je dois vous annoncer qu'historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui. Lequel de nos grands traqueurs de l'histoire vous a le plus ému, Stéphane?
J'ai aimé les trois. Non, honnêtement, j'ai aimé les trois.
On les met au même niveau.
J'ai aimé les trois.
Oui, mais alors, le plus surprenant, c'est peut-être Yves Montand quand même. Je ne savais pas qu'Yves Montand avait peur comme ça. Monter sur scène. Demain, je crois qu'on peut dire que nos personnages ne sont pas trop du genre à être tétanisés par le trac, Stéphane.
Mais non, Mathieu, au contraire, demain, on réunit des princes rebelles. Gaston d'Orléans, donc le frère de Louis XIII, et puis un prince de la musique qui s'est appelé Prince à un moment de sa vie.
Et puis moi, je vous parlerai d'un prince sacrément rebelle, et c'est pour ça qu'on l'aime bien, sauf Stéphane, le prince Harry. J'ai cru comprendre que vous ne le portiez pas dans votre cœur, Stéphane.
Non, mais si, enfin, je veux dire...
Attrapez-vous.
On a tous vu quel point il avait été frappé par... On était frappé par son sens des affaires, de l'intelligence, de vivre, etc.
Il va prendre cher demain. Soyez au rendez-vous à demain, Stéphane.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.